Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ça, c'est de la vie! Oh, c'est magique, ton roi!
C'est absolument dément.
Le spot est juste incroyable.
Ça joue bravo à quelques centimètres!
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Oh, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui je t'emmène dans un style de voyage que j'ai pas l'habitude d'aborder parce que j'essaie toujours de voir les choses sous le bon côté. Et là on va parler d'une expérience qui a un peu mal tourné mais qui est une très belle histoire et qui s'est très bien terminée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie qu'on en parle. Je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines ou quelques mois en fonction du moment où tu vas écouter ce podcast, t'as peut-être entendu parler d'un Français qui malheureusement s'est fait égorger en pleine rue à New York. Sauf qu'il s'avère que ce gars, ce touriste français, c'est un ami à moi, un jeune photographe de talent qui s'appelle Gabriel Bascou. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai invité sur ce podcast pour qu'il puisse nous raconter comment ça s'est passé et surtout comment il est en train de rebondir. Parce que pour moi, c'est ça le plus important, c'est à chaque fois comment t'arrives à rebondir d'événements qui t'arrivent, aussi durs qu'ils puissent être. Et vu que j'ai pu observer qu'il rebondissait très bien et qu'il en tirait des très belles leçons, j'ai voulu qu'il partage ça avec toi. Salut Gab, comment ça va?
Salut Alex, écoute, de mieux en mieux.
Eh ben écoute, alors, si on est un peu au garage là, tu vois, on fait un petit contrôle technique, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a la validation? Est-ce qu'il y a encore des pièces à changer? Est-ce qu'on est bon pour partir sur la route? Comment ça se passe?
Ah non, là le parallélisme est bon, ce qui me reste c'est juste une plaie au niveau de la gorge, là où j'ai eu ma trachéotomie, mais j'ai le plaisir d'avoir le trou de cette trachéotomie. Donc c'est lorsqu'on ne peut plus respirer par les voies aériennes normales, les gentils chirurgiens ORL font une incision sous le cou, en dessous de la paume d'Adam pour les garçons. Mmh. Donc ils coupent et ils vont chercher jusqu'à la trachée cartilagineuse. Donc ils coupent, ils font un petit orifice dedans, ça s'appelle un volet. Ouais. Et par là, ils passent une sonde ou du moins au niveau d'inconscience. En gros, ils foutent un tuyau juste avant tes parties respiratoires normales pour que tu puisses respirer, continuer de respirer.
Ces bâtards, ils t'ont fait, pour te sauver la vie, ils t'ont fait un trou de balle dans la gorge.
Ouais. Et le pire, c'est que j'ai signé pour ça, puisque juste avant d'entrer dans le bloc, j'ai signé ma décharge. Ah non, j'ai un bonhomme.
Comment ça, une décharge? C'est-à-dire qu'ils te disent potentiellement on peut foirer, on n'est pas encore habitué à ce genre de truc. Il y a le stagiaire qui est là, quoi. Non, sérieux?
En gros, c'est en fait quand tu te fais opérer, donc tu as toujours un accord. En France, c'est pareil. Hein, tu signes une décharge, comme quoi tu vas avoir quand même une anesthésie générale, ça comporte des risques. Ouais. Et moi, ils m'ont fait signer ça. Donc, quand t'es pas capable de le signer, si j'avais perdu connaissance, ça aurait été un proche, une personne de confiance. Ouais, okay. Donc, en l'occurrence, ma petite amie qui était avec moi, Manon. Ouais. Mais non, là, j'ai signé comme un homme, en me faisant un garrot moi-même et en.
Salut, je veux bien que vous me sauviez. C'est où que je dois signer, s'il vous plaît, quoi?
Ah non, le mec qui m'a tendu le stylo, il était blême et je crois que je lui ai rendu plein de sang, le truc. Rambo, quoi.
Tu peux garder le stylo. Merci, tu peux garder le stylo. Ok, donc.
Il y a une clause que j'avais pas lu lire parce que moi, la trachéo, à la base, on en parlera peut-être plus tard, mais j'ai une formation, entre autres, d'infirmier. Ouais. J'ai fait des stages dans des services avec des patients qui sont trachéotomisés. Ouais. Et je me disais, pourvu que ça m'arrive. Enfin, vraiment, c'est le truc, t'as pas envie que ça t'arrive, quoi.
Pourquoi? Parce que c'est pratique de finalement.
C'est assez compliqué. En fait, c'est l'angoisse que ça génère. Moi, j'ai un truc. J'ai fait pas mal de surf quand j'étais ado.
Ouais.
Et je me suis fait des gros flips, notamment récemment quand j'ai réussi de surfer dans le sud-ouest, dans des conditions qui sont différentes de là où j'ai appris le surf, avec des courants, des machins. Ouais. Où j'ai quand même eu le plaisir d'être élitreillé. Hein. J'ai dérivé 3 heures. Ouais, c'est pas mal ça aussi.
Une petite baïne. On s'est fait une petite baïne.
Ah, on s'est fait une petite baïne, par gourmandise, et avec des conditions de fou, voilà. Et la noyade, c'est vraiment, je pense, ce qui me fait le plus peur. Et là, si tu veux te respirer plus que par un seul trou, qui en plus s'engorge facilement avec tes sécrétions, avec n'importe quoi, tu te sens hyper vulnérable. Et ne pas pouvoir respirer normalement, c'est une angoisse. Alors, en gros, c'est super angoissant.
Ok, ouais, j'imagine. Et
Ouais.
là, tu m'as dit que pour revenir au contrôle technique, ce truc-là est en train de se finaliser.
Ce truc-là s'est rebouché il y a 2 jours. Voilà, un
Mince.
matin, je me réveille et au lieu que mon pansement soit complètement décollé avec des sécrétions qui me coulent dans le cou comme d'habitude, eh ben non, là, c'était resté pile poil, impeccable, collé.
Parce qu'en fait,
Donc.
voilà, dans le détail un peu sympa, au lieu de te moucher par le nez le matin, c'était par la gorge, un peu. C'est un peu ça.
Ouais, pour faire simple, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voulais moucher, parler, tousser, il fallait que je comprime moi-même ce trou avec mes doigts par-dessus le pansement,
Ouais.
parce que sinon j'avais des fuites d'air complets de tous les sens. Et le pansement, aussi costaud qu'il soit, finissait par se décoller. Il faut savoir que quand on tousse, c'est ce que m'a dit le chirurgien, une toux, pas un éternuement,
Ouais.
c'est 200 km/h
Ah ouais,
de
le
voilà.
postillon, la projection du
Le postillon,
postillon,
ouais.
c'est une balle de fusil, quoi, le
Alors,
machin.
et je crois qu'un éternuement, ça doit être pire. Et d'ailleurs, ce que je voulais te raconter, c'est quand j'ai finalement été rapatrié au bout de, je sais plus combien de jours, peut-être 18 jours, j'ai arrêté
Ouais.
de compter.
Ouais.
J'étais bien sûr en classe business.
Ah ouais?
Merci l'assurance.
Ah,
Ouais,
sympa,
bah ouais.
ah, ils ont pas déconné, d'accord.
Voilà, très bien. J'espère qu'ils n'écouteront pas ça, mais un médecin et une infirmière de part et d'autre de moi, chacun dans notre cocon de classe business. C'est la
Ok.
première fois de ma vie que je voyageais en business. Il faut savoir que la personne de droite ne peut pas te rejoindre. Elle est obligée de faire tout le tour pour venir te rejoindre parce qu'il y a des grandes séparations.
Oui, je vois. Enfin, je vois parce que je
Voilà.
passe devant quand je sors de l'avion, on est d'accord,
Du coup, bien sûr.
hein.
Et du coup, ils étaient censés me surveiller. Voilà, j'en avais un à gauche, un à droite, si vraiment dans l'avion il se
Ouais.
passait un truc, parce que bon, j'avais quand même un trou, un endroit où il fallait pas. Et je sortais de réanimation. Et en fait, ils sont tous les deux endormis, complets comme des larves,
Ah,
complètement à plat en
sympa!
plus, hein. Ouais.
Eh ben,
Et
parce
je
que du
crois
coup, ils
que
sont en mode
je.
canapé, ils sont en mode lit, les mecs. Ils sont pas en
Ouais,
mode petite classe
mais.
économique, donc forcément, tu dors beaucoup mieux.
Totalement allongé, quoi. J'avais jamais vu ça.
Tu leur as pas envoyé les petits mouchoirs ou des petits pop-corn pour les cahuètes et les cahuètes qui filent à un moment donné, tu leur mets dans la gueule.
Ah non, j'ai fait mieux, c'est-à-dire que
J'ai crié.
j'ai eu mon premier éternuement avec un trou dans la gorge donc et un pansement par-dessus. Et donc je sens le truc qui monte et qui me pique le nez et donc je sais pas trop où mettre les mains. Donc comme d'hab, je prends une main, je comprime
Le
au niveau du
pansement.
pansement et en fait, il s'avère que la pression était telle qu'il y avait certainement un petit espace entre mes phalanges où le pansement a réussi à se gonfler à cet endroit-là et a explosé. Dans un bruit si cool. Il y a tout le monde qui s'est retourné dans l'avion en plus. Bah, eux qui s'assoupissaient à côté de moi, ça les a tous interpellés. Donc j'ai dû faire un grand sourire avec ma tête qui dépasse pour dire tout va bien.
Ah putain, t'as
Et
fait comme un petit ballon de baudruche que t'exploses en fait. Les petits ballons, ça
exact,
fait
ouais.
pas.
Exact.
Ah
Ouais, ça fait
putain.
un bruit de fou, quoi. Surtout dans l'avion, les bruits d'explosion comme ça, c'est pas top.
Eh, écoute, au moins ça les a réveillés les petits médecins et les infirmières qui devaient se. Bah voilà, bah c'est vous êtes peut-être pas au
C'est
courant,
ça.
voilà, maintenant vous êtes réveillés.
Je suis en vie, tout va bien.
Maintenant qu'on sait que t'es rapatrié en France, que ça va et que t'arrives justement à avoir un peu de recul et d'humour par rapport à tout ça, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire qui s'est passée à New York?
Ouais.
Pourquoi t'es allé déjà à New York et comment ça s'est passé, dans quelles circonstances? Et évidemment, tu racontes le niveau d'histoire que t'as envie de raconter. Il y a pas de, on n'est pas
Pas de
sur énergie
souci.
12, mon pote. Hein, tu fais ce que tu veux.
Je vois ce que tu veux dire. Ben écoute, j'avais pour idée de faire une surprise à Manon, ma chérie, qui était à New York, qui
Ouais.
vivait à New York depuis un mois et demi en tant que fille au père.
Ouais.
Donc j'ai choisi le moment de la Saint-Valentin pour aller la rejoindre en lui faisant une
Jusque-là, beau
petite
gosse.
surprise. Voilà, pas mal.
Beau gosse.
Petite surprise, Saint-Valentin. Je trouve un Airbnb à un pâté de maison de sa rue.
Super.
Donc top, trop content, pas trop cher pour New York, genre 600 € pour 10 jours, ce qui est
Ah.
rien.
Ah, ça va.
Ouais.
Et t'avais pas juste un bout de chambre quelque part. C'était un vrai
Non,
Airbnb où
non,
t'étais
en
en.
gros, ouais, c'était ça, c'était un grand appart avec 3 chambres et
Ah.
chacune avec, enfin, t'avais une espèce de cuisine en commun, j'ai croisé personne hein, sur le
Ah, ok,
peu de temps que
d'accord.
j'y suis resté. En gros, voilà, au-dessus d'un commissariat. Donc là, tu te dis, t'es au top de ta vie, quoi.
T'es bien. C'était dans
Voilà.
quelle zone
Donc,
d'ailleurs, le Airbnb?
c'était à Harlem. Donc moi, Harlem, à part les Harlem Globetrotters, ça me parlait pas plus que ça.
Non, ouais.
Donc j'y suis allé sans aucune appréhension et puis voilà quoi. Donc je suis arrivé le soir à JFK. J'ai pris mon Airbnb, mon Uber jusqu'à mon appart. Donc j'ai fait 10 mètres pour traverser le trottoir et rentrer dans l'appart.
Ouais.
Super première soirée. On s'offre les cadeaux. Tout va bien.
Alors nickel. Attends, mais donne-nous des trucs un peu stylés parce qu'on s'offre les cadeaux. T'as réussi à lui faire la surprise.
Surprise. Bon, je l'avais quand même prévenu deux jours avant parce que les filles opèrent et que. Et qu'il fallait. Ouais, voilà, c'est une demi-surprise. On est sur un trois quarts de surprise.
Oh, mais beau gosse. Ok, non, je pensais qu'il y avait un petit. Tu sais, j'aurais fait salut. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là ?
Non, j'aurais voulu, mais comme elle. En fait, j'allais la voir alors qu'elle travaillait quand même. Ouais, donc ouais. Elle a des horaires un peu spéciales de filles opères. Donc, il a fallu quand même que je m'assure qu'elle soit dans le coin, que ce soit ton les bonjours, etc. Donc, il a fallu un minimum la mettre au courant.
Ouais.
Et donc, ben, du coup, on se retrouve, génial. Ça faisait deux mois qu'on ne s'était pas vu.
Ça fait plaisir.
Tout va bien, on se fait des cadeaux, on est trop, trop contents. Moi, j'arrive avec plein d'idées photos. Elle est modèle, donc elle avait plein d'idées photos. Elle avait repéré plein d'endroits.
Ah, cool.
Et le lendemain matin, on commence notre journée par aller faire peut-être 30 mètres, aller à l'angle de la rue dans un café qui s'appelle The Hope quelque chose.
L'espoir.
Okay. Ouais. Voilà, pas mal. On rentre, on met une bonne demi-heure à se faire servir. Bon, on s'en foutait. On a pris un petit déj à l'américaine. J'ai fait un portrait. On a dû rester une bonne heure et demie là-dedans. On a fini par sortir.
Ouais.
On allait, donc, vu que j'étais à un pâté de maison, on traversait juste la rue en perpendiculaire pour aller vers cette maison.
Ouais.
Et on se tenait la main et j'étais assez à gauche.
Ouais.
Et donc, elle était en train de me dire. Et donc, c'est là que. Et là, je reçois un grand coup dans la tronche sur ma gauche, que je ne vois pas du tout arriver.
Ouais.
Donc, je pense à un mec qui m'a juste mis une patate gratuite.
Ouais.
Donc sans lâcher la main de Manon, je suis quand même sonné parce que je reçois un bon choc, quoi. Donc,
ouais.
Voilà, je me relève. Enfin, je me relève, je ne suis pas tombé, mais je redresse la tête.
Ouais.
Et je vois un type capuché me regarder dans les yeux et partir en courant. Donc là, il a dû s'écouler une seconde et demie, deux secondes où j'ai pas compris.
Ouais.
Et en fait, donc on était un mois, deux mois maintenant peut-être. J'avais le manteau et là, je sens en grande quantité de liquide chaud qui me coule dans le cou.
Ouf.
Et donc ouais. Et là, alors en fait, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que j'ai une montre connectée. Pour pas faire de pub.
Ouais.
Et donc, on venait de manger, on était posé, on était assis, on marchait très lentement en mode visite. On parlait à voix basse, donc pas d'excitation, rien du tout. Et j'avais mon pouls qui était relativement bas, qui était, je me rappelle, à 55
pulsations par minute. Ah, beaucoup plus sportif, le gars.
Sportif quand même, hein. Ouais, ouais,
attends, ouais, pas mal.
Et en fait, tout le long de l'événement que je vais vous raconter, j'ai regardé une semaine plus tard ma montre par curiosité, ouais. que j'ai gardée jusqu'à l'entrée au bloc.
Ouais.
J'ai le rythme cardiaque qui est resté le même tout le long.
Wow.
Et ça, c'est un truc que j'ai eu du mal à...
T'es en train de dire que en fait, au moment où t'as reçu ça, parce que tu nous as pas encore dit quand ça a cliqué, en fait, t'as senti ça, mais t'étais à 55 et en fait, t'es resté quasiment à 55 après tout le long.
Tout le long, ouais. Et wow. Donc ça m'a vraiment surpris puisque comme je t'ai dit, je viens de la santé, donc j'ai fait de nombreux stages et j'ai pas mal bossé, donc je vois un peu les types de réactions qu'on peut avoir là. Et en fait, si tu veux, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, je sais pas si c'est de la sidération ou quoi, mais en fait,
instinct de survie.
En ayant parlé à des à des psys depuis, et je suis resté dans le contrôle tout le long, donc j'ai reçu ce coup. Je me suis tout de suite, j'ai comprimé, donc ça m'arrivait à gauche, j'ai comprimé avec ma main gauche.
Quand t'as senti le sang chaud en fait qui coulait,
ouais,
là, t'as dit
voilà.
Ok, en fait, ok.
Donc,
ça passe autre chose.
J'ai plaqué ma main, aussi grande soit-elle, contre mon cou, et j'ai posé un genou au sol. J'ai attrapé ma main par la main, j'ai gardé encore ma main dans la main. Je lui ai donné mon groupe sanguin et mes allergies.
Oh, beau gosse.
Il faut connaître ses allergies, les gars. Moi, je suis allergique à la pénicilline. Il faut savoir que si vous êtes renversé dans la rue et ramassé par les pompiers, le premier truc qu'ils vous mettent, ça, entre autres, ça peut être de la pénicilline. Et si vous êtes allergique, c'est vous êtes fatal. Donc,
comment on sait ça comment on sait on fait des tests,
moi, j'ai eu l'expérience bébé. J'ai une mère infirmière, donc ce qui m'a énormément aidé. Bébé, j'ai fait une allergie.
Ok.
Donc voilà, ça je le savais, ma mère me le répète régulièrement depuis que je suis gamin, donc c'est un truc que j'ai imprimé, quoi.
Ok,
Et
mais ça,
voilà, même
on
dans
peut
les
aller faire des
situations de
tests au
panique.
pire, on peut aller faire des tests à
Ouais,
l'hôpital
bien sûr.
pour savoir, j'imagine, au cas où, si on est un peu en
Bien sûr,
prévention.
ouais.
Ok, super.
Voilà, ça c'est top à faire. Connaître son groupe sanguin, super important.
Ouais, c'est quoi le tien du coup?
À plus,
A
si
plus.
jamais.
Alors, tu sais que les groupes sanguins, on est tous un peu genre, je crois que je suis. La phrase commence toujours par je crois que je suis.
Ouais,
Donc,
faut pas
typiquement,
déconner, quoi.
du coup, dans ta situation, c'est je crois que je vais mourir, en gros, parce que je sais pas trop lequel c'est. C'est quoi les plus rares? Parce que en plus, t'es infirmier, tu sais, ceux qui sont rares et
Ouais.
ceux qui sont super bien lotis, c'est lesquels? Pour que les gens sachent un
Alors, en
peu
gros,
dans quelle merde ils sont.
le groupe sanguin O est donneur universel. Donc, en
Oh,
fait, si on
positif ou
vous retrouve
négatif?
inconscient. Ouais, si on vous retrouve. En fait, attendez, je vais pas dire de conneries, ça fait un moment, mais en gros. Ah mince, je vais pas prendre de risque entre le positif et le négatif, même
Ok,
si
très
ça
bien.
va me paraître évident dans 5 minutes.
Bien sûr.
En gros, donc le O est donneur universel, et si vous vous faites renverser dans la rue et qu'on vous retrouve, vous êtes inconscient et que vous avez besoin d'une transfusion, on va pas prendre de risque et on va vous filer du O. Il faut savoir que
Ok.
c'est le groupe sanguin également le plus rare.
Ah, ok.
Ouais.
Super, je suis haut
Et
moi.
Théo,
Ouais,
bah
je suis
voilà,
haut.
tu es un donneur universel. Ça
Ok.
va bien avec le personnage, je
Oh,
trouve.
je donne, c'est fou.
Voilà. Mais par contre, pour recevoir, toi, c'est plus compliqué. Parce que je crois que tu peux recevoir que du haut.
Ok.
Et voilà. Et le plus compliqué, c'est le AB. Le AB positif, il me semble.
Ah, ce
Donc.
truc-là, ça existe que au fin fond de l'Alaska avec.
Non. Bah non, non. Mais en gros, c'est-à-dire que. Il y a un petit schéma qui est assez facile. Mais en gros, le O donne au A, donne au B et donne au AB. Le A peut donner au AB. Le B peut donner au AB. Mais le AB, il peut donner à personne, quoi.
Ah, mais il peut
C'est
donner, mais il
simple.
peut recevoir.
Il peut donner au AB et il peut recevoir du A et du B et du O. Voilà. C'est un
Ah non,
peu, je
il est
prends
bien
tout
le
pour ma
AB
gueule.
alors.
Ouais,
Ah ouais.
voilà.
Ok, ça va alors. Donc, pour revenir à ton réflexe de Master Yoda,
Voilà.
de
Donc, en fait, il...
Master Jedi, bonjour, je suis. Alors, moi,
D'accord.
c'est O et je suis allergique à ça. Ok, c'est parti.
Donc je donne mon groupe sanguin et mes allergies à Manon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est ça dont j'aurais dû vous raconter avant, c'est que ça a sidéré tout le monde autour. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui arrivait en vélo et les gens sont. Personne ne s'est approché dans un premier temps. Je ne sais pas, pendant la première 45 secondes, personne n'est venu vers moi. Donc j'étais
Okay.
seul avec Manon. Et tout le monde est resté au loin, personne ne savait ce qui se passait. En plus, ma plaie était un peu camouflée par mon manteau. Il commençait à avoir une sacrée mare de sang devant moi. Les gens ont flippé, quoi. Les gens n'ont pas su ce qui se passait. Ils n'ont pas osé s'approcher ou porter secours dans un premier temps. Donc, j'ai vu que Manon était peut-être pas sur le moment en capacité d'appeler les secours. Donc, je lui ai demandé d'appeler le 911, de demander à la dame qui nous regardait au loin d'appeler le 911. Ce qu'elle a fait, d'ailleurs, heureusement.
Ah cool.
Ça aurait été compliqué. Ouais, ça aurait été compliqué, je pense, de lui expliquer. Et à partir de là, elle s'est un peu rapprochée avec son vélo et je pense que ça a rassuré les gens. Et moi, à l'américaine, j'ai un prêtre qui est arrivé de nulle part,
Non!
qui
Oh
s'est
non!
agenouillé en face de moi, dans la même position que moi, qui m'a tenu la main et qui a commencé à prier pour moi. Et en fait, moi, j'étais
Alors.
persuadé que j'allais m'évanouir d'un moment à l'autre.
Ouais, je peux comprendre.
Parce que les gens me demandaient ce qui s'est passé. Donc, en fait, je parlais
Ah, t'arrives à
à
parler,
voix.
toi?
Ouais, j'arrivais à parler, je parlais à voix, essayer de parler en gardant un peu les dents serrées, mais à chaque fois que je parlais, désolé pour les détails, mais j'envoyais une gerbe de sang à travers mes doigts sur le trottoir, pas cool quoi.
Ok.
Et donc j'ai essayé de pas trop en dire. D'ailleurs, par la suite, les gens ont tous dit que je parlais pas anglais, mais en fait, c'est-à-dire que je me débrouille en anglais quand j'ai pas la gorge tranchée quoi, d'habitude.
Ok, je comprends.
Ouais. Et en gros, donc il y avait ce prêtre en face de moi qui m'a demandé si j'avais accepté Jésus comme mon sauveur et tout. Donc
Bah là,
là pour le coup, le mec il m'a pas mis dans un bon mood quoi.
Ouais, bah là en
Mais
fait, tu te dis, t'es en train de me dire que je vais crever et tu veux savoir si je suis accompagné par Jésus, quoi, c'est ça? Tu veux pas
ouais.
plutôt être qu'on reste ensemble? Là, on est bien sur le trottoir, quoi. Bon.
Ouais, donc en fait j'ai essayé de faire abstraction de ce qui se passait. Je regardais dans le vide pour
Énorme
pas
quand
pour
même le
voilà. Je
truc.
regardais dans le vide. J'avais mon garrot et j'étais persuadé que j'allais m'évanouir vu la quantité de sang qui coulait et
Ouais, ouais, ouais.
devant moi. Parce qu'en fait, je fixais la mare de sang pour essayer de quantifier un peu tout ce que je perdais et savoir à quel moment j'allais m'évanouir, quoi, parce que c'est ce qui arrive normalement. Et ben, je me suis pas évanoui. Je sais pas pourquoi. Et du coup, au bout de, je crois, 9-10 minutes, il y a les secours qui sont arrivés. ou les qui ont pas su totalement quoi faire sur le moment, machin, ils étaient un peu devant le truc et ça a mis, je pense, 2 minutes à se mettre en route.
Truc horrible. Puis, bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider?
Dis donc,
votre copine n'a pas l'air bien, là, un peu bien, votre copine. D'accord.
Ils m'ont brancard, machin, tout en comprimant.
Ouais. Alors, le truc tout con, parce que ça, c'est le truc de film, Gab, que tu dis, genre, je comprime. Est-ce que vraiment ça a un effet? Parce que ça.
Ah ouais. Ah,
c'est-à-dire que malgré la mare de sang que ça a provoqué, tu l'avais pas mis, en gros, s'il n'y avait pas cette compression permanente avec ta main, c'était 10 fois pire.
Ouais.
Ok, d'accord.
C'est difficile de quantifier.
On saura jamais.
Bien sûr, ça aurait été pire, quoi, clairement.
Ok, d'accord. Donc c'est vraiment super important d'avoir ce réflexe-là, en fait, et c'est pas du folklore. Ouais. Ok, très bien.
Garder son calme. Voilà, garder son calme, comprimer, faire vraiment être très efficace dans ce qu'on fait. Mm-hmm. Et pas paniquer, quoi. Pas s'allonger, pas courir, pas hurler, pas. Bon, mais ça, de toute façon, j'ai pas réfléchi, ça s'est fait comme ça sur le moment. Mais donc je rentre dans le brancard et avec accompagné de brancard dans l'ambulance, accompagné de Manon. Là, le mec me dit un premier truc un peu cool, c'est qu'il me dit que ça m'est arrivé à même pas 1 kilomètre de l'hôpital, plus proche.
Okay.
Donc on a tracé. Et le premier moment où j'ai eu de la peine, c'est que le mec pour me poser ma perfusion, au lieu de me remonter ma manche, il l'a découpée.
Oh non, il a découpé, ta belle chemise.
Mon manteau Gore-Tex, parce qu'en plus il faut savoir que avant de venir voir ma chérie pour 10 jours, je m'étais mis au max, quoi. J'avais acheté plein d'habits neufs, je m'étais fait beau gosse, quoi. Et là ils ont tout coupé, les mecs. Donc le mec coupe ma manche de manteau, mon beau manteau.
Et c'est là on voit que t'étais un peu conscient, c'est-à-dire que t'étais pas prêt de t'évanouir, ou peut-être ou alors si tu t'évanouissais, genre putain il a coupé ma manche et bam. Non, c'est qu'il y avait encore t'étais encore dans la réalité de la vie de la vie de consumérisme, quand même.
Ça m'a fait un petit pincement au cœur. Je me suis dit, oh putain, mon beau manteau qui m'a coûté une blinde, fait chier. Bon, et puis en fait j'arrive aux urgences, et là urgence, la série à l'américaine, genre je sais pas, il y avait une quantité de médecins disponibles à ce moment-là. Ça m'est arrivé donc après le petit déj un peu tardif, ça m'est arrivé pile poil à 11h du matin.
Okay.
Donc voilà, Harlem, 11h du matin, gros soleil, tu te dis pas qu'il va t'arriver un truc pareil, quoi. Bah. D'ailleurs, même ça fait 10 ans que je vis à Paris et je me suis jamais senti en insécurité comme ça partout où j'allais à n'importe quelle heure.
Mais avant que ça t'arrive, tu te sentais pas forcément en insécurité non plus.
Pas du tout.
Harlem, c'est ok. À l'époque, c'était vraiment craignos. Bon, apparemment, il y a encore des barjots, mais. Tu te rappelles ce que je t'ai dit quand on s'était eu? T'es quand même le mec à la fois le plus malchanceux et le plus chanceux du monde. C'est-à-dire que le plus malchanceux de se balader, t'es là, tu te prends un coup de couteau dans la gorge qui est quand même, franchement, putain, fait chier, quoi. Je viens de me faire un petit bacon and cheese, voilà, relax. Mais que t'es le plus chanceux du monde, parce que quand quelqu'un dit, écoute, j'ai un pote qui s'est fait égorger à New York, bah en fait, tu vois déjà dans 6 pieds sous terre. Non, il est vivant. T'es vivant, en fait. Et c'est ça qui est surpuissant. Putain, c'est de te dire, t'es encore là aujourd'hui. Et je pense que, bon, on y reviendra aussi. Ça va être important de voir comment t'as apprécié, aborder le truc mentalement, psychologiquement. Mais c'est assez taré, en fait. Je t'ai coupé dans ton élan.
C'est vrai que.
Mais les mecs, ils t'ont dit quoi, les médecins? Parce qu'ils doivent en voir, du coup. C'est banal ou au contraire.
En fait, tu rentres dans aux urgences. Tu dois avoir. Entre 9 et 13 personnes autour de toi, t'as un mec qui t'enlève tes pompes et qui te découpe tous tes habits en partant de la cheville, en remontant jusqu'au col. C'est-à-dire que le mec m'a tout coupé, même le slibard neuf, il est parti. Il a tout. Il est parti. Le jean, la ceinture, le caleçon, le t-shirt, le
pull, tout. Je préfère te dire, déjà, le sang, ça passe super mal à la machine à laver. T'aurais du mal à récupérer. Voilà, je te préfère comme ça. Il n'y a pas de remords. C'est vraiment galère à enlever, le sang.
Bon,
deuxième chose, est-ce que tu peux demander la marque de ciseaux de ce mec-là? Parce que si un mec, il arrive à couper un jean, une ceinture et une chemise en 3 coups de ciseaux, c'est de la bonne cam, quand même.
Voilà. Ouais, donc feuillage burlesque sous des néons avec 13 personnes.
Et là, t'es encore conscient, en plus, je m'en rappelle. Putain, attends, mais mec, t'es encore conscient là?
Ouais, complet, ouais, j'ai toujours ma main dans mon cou.
Ils sont 13, il y en a pas un qui peut la mettre, quoi.
Pardon?
Ils étaient 13 autour de toi, il y en a un qui peut prendre leur relais et se dire attends, t'inquiète pas, relâche-toi.
Ouais, 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 non, mais oui, il y a des mecs qui m'appuyaient en plus. Bah, en fait, je n'avais pas conscience de la taille que ça faisait. En fait, il s'est avéré que c'était une coupure au cutter,
okay.
qui est assez balèze, quoi. Je n'ai pas mesuré, mais ça part de. Le mec m'a chopé un bout d'oreille quand même, donc ça, c'est ce qui m'a un peu inquiété aussi. Je me suis dit, il va me manquer un bout d'oreille, tu
oh,
sais,
non.
Un peu à la Tyson, quoi.
Ouais.
Et en fait, non, il a juste. Couper le haut de l'oreille, mais très, assez superficiellement, et puis en une fraction de seconde, il a quand même bien visé ce amorti, quoi. Et donc, ouais, donc jusqu'à devant, quoi. Je pars de quasiment de la nuque derrière, de sous l'oreille, jusqu'à devant, quoi.
Wow.
Et donc, les mecs prennent le relais. Je m'inquiétais pas mal pour Manon à ce moment-là aussi, qui était complètement désemparée,
bien sûr.
Qui m'avait demandé est-ce que tu veux que je prévienne ta mère? Il faut savoir que du côté de ma maman, je suis fils unique.
Ok.
Ma maman est infirmière.
Ok.
Donc voilà, elle m'a déjà sauvé la poire quand j'avais 19 ans. Ouais, 19 ans. Accident de surf sur du corail. J'ai eu le premier chien qui voulait m'amputer.
Ah, elle sympa.
Elle m'a sorti de l'hôpital en l'envoyant se faire pêtre. Et elle a changé d'hôpital. Et aujourd'hui, j'ai encore ma jambe d'ailleurs. Mais je me dis que le nombre de personnes à qui ça doit arriver, ça, si j'avais pas eu ma mère à ce moment-là pour envoyer paître le chirurgien qui voulait pas se prendre la tête et couper.
Dis donc, toi, tu tombes sur des mecs un peu flemmards quand même, c'est ce côté genre.
Ouais, ouais.
Oula, non, ça va être galère, vaut mieux tout couper. Franchement,
ouais,
moi j'ai l'apéro ce soir, on va pas se prendre la tête.
J'avais fait, pour ceux qui en ont eu, j'avais fait une arthrite septique au niveau du genou et j'étais en pleine septicémie et compagnie, donc le mec voulait pas prendre de risque et tout bazarder, quoi. Bon, voilà.
Sympa.
Et donc j'avais
mais
dit
du coup,
à Manon à ce moment-là, je
vas-y,
dis,
fais appel
dit,
maman.
Est-ce que tu veux que j'appelle ta mère? Je lui ai dit, écoute, si ça peut te faire aller mieux, vas-y. Parce que elle était seule, la pauvre. Et,
ouais.
Et puis bon, en fait, c'est elle qui m'a raconté ces moments-là, parce que je les ai oubliés. Hein. Mais,
d'accord.
Et voilà, puis je me revois la dernière image que j'ai, c'est avant de passer les portes du bloc, le mec qui me fait signer ma décharge. Et par contre, bah du coup, je parlais, hein, parce que je décrivais, j'ai parlé même à un policier, il me semble, donc je décrivais l'individu, etc. Et je me suis réveillé, alors je me suis réveillé pas tout de suite parce que anesthésie générale, du coup, j'ai dû mettre une bonne trois quarts de journée avant de me réveiller après l'opération.
Ouais.
Enfin, ouais, je me suis fait opérer à midi et je devais me réveiller le lendemain matin et en fait, je me suis réveillé le soir. Voilà.
Okay.
Ce qui n'était pas prévu, apparemment j'étais bah, comme quand tu as une anesthésie générale, tu es
trop. Non, c'est le décalage horaire, ça, laisse tomber, ça, c'est crevant.
Attaché,
ça.
Oui. C'est ça, tu te retrouves en fait ce qu'on appelle contention, donc tu as les mains qui sont attachées au lit dans des gants pour pas que tu te réveilles paniqué et que tu tires sur tous tes câbles qui t'entourent. Quoi.
Okay, ouais.
Et donc apparemment, moi je ne m'en rappelle pas, mais dans, parce que j'étais complètement sédaté et j'ai réussi à négocier avec l'infirmière qu'elle me détache en lui disant que moi aussi j'étais infirmier. Je sais pas comment elle a fait parce que je me rappelle pas de ce moment, donc moi je me serais pas fait
le
confiance.
Le mec est en pleine négo avant de se faire opérer. Enfin, écoute, je parlais bien, approche, j'ai un truc à dire, je suis infirmier. Franchement, on m'attache
t'inquiète.
Pas.
T'inquiète,
je vais gérer.
Ouais. Alors en gros, c'était pour qu'elle me détache plutôt que prévu. Mais ça, je m'en rappelle pas, c'est Manon aussi qui me l'a raconté parce que du coup, je me suis réveillé en réa. Et là, j'ai eu la bonne surprise de voir que j'avais une trachéo. Et alors ça, ouf. Parce que c'est... Ouais. Bah parce que déjà, tu n'étais pas bien. Il faut savoir que tu t'étouffes très, très, très régulièrement avec les sécrétions de tes poumons que tu avales en permanence dans la journée. Et donc, ça vient boucher le tuyau.
Okay. Ah ouais.
Et c'est assez angoissant. Et donc, en fait, tu
comment tu fais? Tu le vides?
Je sais pas, moi.
Faut le vider, t'appelles quelqu'un.
10 minutes, selon les sécrétions, mais ça peut aller toutes les 10 minutes, t'appelles l'infirmière pour qu'elle vienne t'aspirer avec une sonde, avec une longue sonde stérile.
Ouais, les journées sont longues.
Ouais.
Hein.
Ouais, ça peut être ça. Ça peut être pire, ça peut être plus long. Tu peux te faire aspirer deux fois par jour selon tes sécrétions, quoi. Et en gros, on vient te chercher passe par le trou et on descend jusque dans tes bronches une sonde. Et on aspire. Voilà. Et ça, c'est vraiment pas très agréable parce que clairement, quand on te met la sonde, ça finit de t'étouffer. Quoi. Le peu d'air qui passait ne passe plus.
C'est clair. En termes de douleur, ça va te défoncer.
Ouais, bah c'est surtout très angoissant. Parce qu'en plus, donc c'est un système d'aspiration. Et du coup, quand on t'aspire en aspirant, en remontant, et si tu veux, ça te vide tout l'air que tu avais dans les poumons. Quoi. On vient, c'est comme tu prends un aspirateur, tu le mets dans ta bouche et tu vois à peu près ce que ça fait.
Voilà, alors, si les gens qui nous écoutent sont pas eux évanouis de leur côté, déjà bravo. Qu'est-ce qui se. Une fois que t'es sur ce lit d'hôpital, tu t'es réveillé après X heures et l'opération, et que bon, finalement t'es quand même tiré d'affaire et c'est quand même ça le principal, même si t'as un pipeline au milieu de la gorge, c'est quand même pas forcément agréable, qui en plus se bouche. Il se passe quoi dans ta tête dans les premiers instants? Enfin, tu vois, t'es passé quand même de. Putain, c'est. Merde! T'es là, tu vas prendre le petit déj, tu vas prendre des photos avec ta copine à Saint-Valentin, à te retrouver avec un trou de balle que tu voulais surtout pas avoir au milieu de la gorge. Ah. Et bon, sauvé, mais tu vois, il se passe quoi?
Bah, en fait, tu réalises pas tout de suite l'ampleur du truc. Parce que au début, tu vois, c'était je me suis pris une patate. Bon, ouais. Ça va me gâcher ma journée parce que je trouve ça gratuit et violent, ça va me saouler. Ouais. Ça nous est peut-être arrivé de recevoir, de se faire agresser par un mec bourré en soirée, et clairement, ça te flingue ta soirée, quoi. Tu te dis, tu te sens un peu.
Mauvaise énergie,
Ouais, mauvaise énergie, injustice. Moi, ça me l'est fait. Et bon, après, tu le sens. Donc là, tu calmes un peu, mais tu te dis, bon, ça se trouve, c'est une coupure. On va te recoudre et ce soir, t'es sorti, quoi. Mmh. Tu te réveilles avec la traque. Bon, déjà, c'est chaud. Mais sur le moment, en fait, t'es tellement sédaté qu'il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui m'est arrivé et je ne me rappelle pas. Et où je me rappelle, en fait, c'est que tu te réveilles, tu ne peux pas parler.
Ah, ok. Ouais.
Voilà. En gros, juste avant tes cordes vocales, c'est court-circuité. Donc, tu as tout l'air qui sort en dessous. Donc, tu ne peux que écrire. Donc, moi, je réflexe et téléphone et note. Et tu vas et tu dis tout ce que tu as à dire. Et en fait, tu es sédaté. Je me rappelle, je galérais à écrire
au clavier.
Au clavier, et puis putain, ça m'énervait, je perdais patience.
Ouais, parce qu'en plus, ça doit être le délire mental de se dire je dois communiquer parce que j'ai des choses à dire, et tout à coup, t'as plus ta voix et te retrouver bloqué, et que vas-y, passe le téléphone.
Le premier truc que j'ai dit, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai toutes ces notes en fait, et je m'en rappelais pas parce que chaque fois que je parlais, je créais une nouvelle note. Et j'en ai gardé beaucoup, et le premier truc que j'ai dit, c'est je m'étouffe.
Ok, voilà, ça va pas.
Je parlais de aussi à Manon. Mon téléphone, je m'en sers actuellement. Je pourrais pas te dire, mais un truc du style. Je prends des nouvelles de Manon, et puis ensuite je lui dis que je m'étouffe. Donc elle appelle l'infirmière, et en fait Manon a été une clé dans toute mon hospitalisation, puisqu'elle ne m'a pas quitté une seule fois de toute l'hospitalisation. Elle était restée en réa autant de jours que je suis resté. Elle a dormi en réa avec moi, au début sur un fauteuil, puis à la fin dans le lit avec carrément. Et les Américains n'ont rien dit. On devait être le couple, les French lovers, quoi. Ils nous ont laissés. Mais voilà. Donc,
ça, c'est de la garde, fan, mon pote. Hein.
Ouais, celle-là, je la garde.
Ouais, tu m'étonnes.
Et si tu veux, voilà, je communique vite fait, et en plus tu écris en anglais aux infirmières sur ton portable. Bon, ça se passe, hein, puisque
okay.
Voilà, ça se fait. Et puis le réflexe de la story, quoi. Du coup, je dis à Manon, allez, on fait une story. Enfin, je lui dis non, je lui écris, et du coup, on fait un vieux selfie horrible fait à l'arrache, et j'écris. J'avais besoin de sortir tout de suite. J'ai rien gardé pour moi de tout le long, en fait. Et j'ai écrit, voilà. Et je me suis fait juste pris un coup de couteau dans la rue. À ce moment-là, je ne savais pas encore que c'était un cutter, mais je viens de me prendre un coup de couteau, violence gratuite, inouïe. Voilà, tout va bien, je vous aime. Profitez de la vie, quoi, un truc comme ça. Et en fait, ce que m'a dit Manon, c'est que j'ai écrit, elle a regardé mon téléphone, elle a tout retapé parce que c'était incompréhensible.
J'aime bien les couteaux à Harlem, merci, au revoir. C'est le truc. Ouais,
apparemment, ça elle me l'a dit après aussi. Et là, j'ai été inondé de réactions de mes proches,
Bah, j'imagine, tu balances un peu une bombe, et vu que c'est pas le genre de blague qu'on fait non plus, donc on s'est été tout de suite pris au sérieux, et d'un côté tant mieux. Ouais. Mais finalement, je trouve ça vachement intéressant ce que tu as dit, c'est que tout de suite t'avais besoin d'extérioriser, en fait. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que tu le vis. Bon, évidemment, c'est pas non plus les bisounours, mais que t'as vachement avancé aussi vite, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de le partager et aussi de voir que les gens étaient solidaires et de pas le garder pour toi, être dans ton trou, entre guillemets, dans ta bulle, un peu dans ta prison que tu te crées toi-même psychologique, le partager, c'est ça t'a fait avancer, en fait. C'est un peu ça, tu t'es fait ton autopsychanalyse, ton autothérapie.
Ouais, c'est ça, j'ai pas changé mes habitudes, en fait. Le lendemain, enfin même le soir même, si tu veux, j'ai pas changé mes habitudes et j'ai fait ce que j'aurais fait.
T'as été faire un footing, tranquille.
Non, mais genre partager, faire une photo, parce que c'est ça qui me fait vivre. Et c'est de faire une photo et de partager, de raconter, documenter. Et c'est l'un des premiers, une première chose que j'ai faite.
C'est vrai que d'ailleurs, je t'ai vu, maintenant que tu vas mieux, tu as commencé à poster des photos que tu as fait dans ta chambre d'hôpital qui sont magnifiques, comme d'habitude.
Merci.
Tu as continué, en fait. Le mec était sur son lit d'hôpital, le gars, passe-moi l'appareil photo. Il faut que je photographie un peu, là.
Ouais, j'ai repris l'appareil. L'appareil, je l'ai repris au bout de 11 jours, en fait, quand j'ai pu sortir de réanimation, parce que j'avais vu sur rien en réanimation. Et ça, d'ailleurs, je devenais complètement fou, quoi, Si tu veux, en réanimation, t'as pas de jour, t'as pas de nuit, c'est toujours allumé, c'est toujours bruyant. Là encore, il y avait une porte, ce qui n'est pas dans toutes les réanimations, t'as quelqu'un qui vient te voir toutes les, je sais pas, 3 heures.
Okay.
Quand tu vas bien, quand tu ne demandes rien, quelqu'un passe tous les 3 heures pour te checker, total, t'es branché en permanence de partout, on vient de prendre la tension, on vient d'évaluer ta douleur, etc. Okay. Donc, t'as pas d'intimité, t'as des toilettes dans la chambre. Qui en fait ils sont une espèce de tiroir, donc
un tiroir
un peu comme en prison, tu tires un tiroir, t'as pas de rideau, t'as rien, t'as tout le monde qui peut rentrer à n'importe quel moment dans la chambre, etc.
Okay.
Donc si tu veux, c'est vraiment voilà, t'as vu sur rien, t'as pas d'air, t'as que la clim. Ça m'a rendu fou. Pas de clim, pas de jour, pas d'arbre, pas de plante, rien.
Et en fait, à quoi tu penses justement à cette période-là, avant de pouvoir, tu vois, peut-être un peu voir dehors, etc. C'est quoi que tu rumines toute la journée dans ta tête, surtout qu'en plus tu peux taper, ça, c'est bien, mais il y a un moment tes pensées vont 10 000 fois plus vite que ce que tu peux écrire. C'est quoi les pensées qui étaient en boucle? Est-ce que c'est con, hein? Est-ce que c'était la maison de ta maman en France? Est-ce que c'était de dire à tout plein de choses à Manon que t'aurais aimé lui dire de vive voix? Est-ce que c'est ruminer en fait la scène, tu sais, se la repasser en boucle? C'était quoi en fait qu'à ce moment-là qui se passait dans ta tête?
Alors sur l'événement lui-même, j'ai pas ruminé.
Chambé.
Alors je sais pas, peut-être pas encore, mais en tout cas j'ai pas ruminé.
Ouais.
En fait, si tu veux, ça m'est arrivé ce truc, c'est comme si j'avais été frappé par la foudre, parce que j'ai rien vu venir. Le mec, il est arrivé par derrière.
Ouais.
Je veux dire, même si j'étais champion du monde de Krav Maga et que j'avais été préparé toute ma vie à ce moment, le mec est arrivé par derrière en mode Splinter Cell et m'a égorgé au cutter, quoi.
Ouais.
Donc là, même le mec le plus costaud de la terre, tu as gagné, quoi, clairement.
Ouais.
Donc si tu veux, je me suis pas remis en question en mode
j'ai déconné, j'aurais pu faire déconné, autrement. T'aurais rien pu faire autrement de toute façon.
Voilà, en fait c'est, tu vois, c'est pas. Voilà. Et ça, je me suis accroché à ça.
Génial.
Vraiment, c'est ce que j'ai pas arrêté de raconter, même aux policiers ou quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de confrontation. Le mec, je l'ai pas regardé de travers, j'ai pas soutenu son regard, je lui ai pas donné un coup d'épaule, j'ai pas mal réagi à un de ses signaux. Voilà, enfin, je veux dire, j'avais mon appareil photo qui a beaucoup, beaucoup de valeur d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, c'est un Leica. Et si le mec m'avait volé mon appareil photo, je m'en serais voulu en me disant voilà ce que c'est de se balader avec un Leica à Harlem, tu vois. Mais le mec, non, rien. Il m'a pas volé, il m'a pas parlé. Il m'a pris. Je pense qu'il m'a pris. Ben, d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils l'ont qualifié. C'est une random attaque, quoi. Genre, voilà.
C'est apparemment. Est-ce que tu confirmes? J'avais entendu dire dans des articles, des trucs comme ça, que c'était une espèce de rite d'initiation pour rentrer dans un gang.
Alors ça, c'est des gens qui ont vécu à New York m'ont raconté. Enfin, ça peut être une des explications.
Ouais, ok. C'est donc, pas forcément un truc officiel. Ok.
Y a rien d'officiel pour l'instant. Et moi, ça, c'est par la suite, c'est un truc que j'ai voulu. Enfin, que le mec explique son geste. C'est un truc qui m'intéresse de savoir. Est-ce que c'est juste un détraqué qui a fait ça de manière complètement au pif parce que c'est arrivé à 11h du matin? Mais si, est-ce que le mec après, il est allé, je sais pas, m'a bouffé une pizza, ou est-ce qu'il s'est caché, ou est-ce qu'il a réalisé, etc.
Ouais.
Et apparemment, la procureure m'a dit que ouais, il s'était bien caché après. Donc le mec a quand même réalisé ce qu'il a fait.
Ouais. Parce que voilà, donc là, ce que l'histoire, nous on l'a pas raconté, mais ce qui s'est passé, c'est que je sais plus combien de jours après, ils ont retrouvé cet homme. Donc,
3 jours après, ouais.
3 jours après, donc déjà pas mal.
Ouais.
Et surtout, du coup, apparemment, ce mec est multirécidiviste. Encore une fois, tu me dis si je me trompe. Et du coup, là, il est en prison pour pas mal de temps.
Voilà, donc en fait là il est donc il a été attrapé. J'ai eu moi des infos par des journalistes du New York
Ok.
Post et de la procureure où le mec aurait été arrêté il y a 2 ans pour des faits similaires. Il a donné un coup de couteau à
Ok, je...
un commerçant dans le quartier. D'ailleurs le mec a fait ça à 5 minutes à pied de chez lui. Hein. Mais il avait été relâché parce que il n'avait pas assez de preuves suffisantes apparemment. Donc je ne vois pas comment ils peuvent arrêter le mec, le mettre en prison et le relâcher parce qu'il manque des preuves. Donc voilà.
C'est l'Amérique.
Ouais. Et puis on a tendance à penser qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus sévères avec ça. Mais en fait, pas du tout. Là, le mec encourt une peine maximale de 25 ans,
Ok.
qui est le max. Et la procureure m'a dit qu'il risquait plus 15, 10-15.
Ok.
Ce qui me paraît complètement fou, quoi, parce
Parce
que
que dans 10-15 ans, il peut refaire un truc comme ça, ouais. Mais
mais
parce
ouais,
que vu
mais
qu'en
c'est
gros,
ça.
il
Et
a
en
vu.
fait,
Par contre, si t'avais été mort, là, il aurait pris chaud, là, tu vois. Mais c'est dommage. T'as pas signé sur le bon scénario pour qu'il prenne
ouais,
perpète.
je crois qu'il a 4 chefs d'accusation ou
Oh la
trois
vache.
tentatives de meurtre,
Oh là là.
mutilation, etc. Et je me dis, ce qui est fou, c'est que le max que le mec puisse avoir, c'est 25 ans. C'est-à-dire qu'il a essayé de tuer quelqu'un. C'est pas, tu vois, il a pas fait ça pour blesser et quoi. Il a fait, tu mets un coup de cutter dans la gorge de quelqu'un, c'est pour le tuer, quoi. Donc le mec a fait une tentative de meurtre. On te dit, bon, allez, au max, tu prends 25. En vrai, pour bonne conduite, au bout de 15 ou 10 ans, tu peux être libéré. C'est chill, quoi. Je trouve ça
Ouais.
vraiment chill.
Ouais, je comprends.
Et
D'ailleurs,
du coup,
ça.
moi, j'ai eu besoin
Ouais,
de.
excuse-moi, vas-y.
Ouais.
Non, non, continue,
Non, j'ai eu.
continue.
C'est des questions que j'ai posées au procureur. Je voulais savoir à quel profil j'avais affaire, quoi. Est-ce que c'est
Ouais, bien sûr.
un dégénéré qui va ressortir dans 15 ans et qui va se dire je vais terminer mon œuvre, tu vois? Ben, c'est des trucs qui sont carrément possibles, quoi. Le mec, ça se trouve, il a fait une fixette. Moi, je pense qu'il me connaissait pas et il sait, à mon avis, sur le moment, il savait même pas que j'étais français parce que ce mec, je l'ai pas vu dans le restaurant dans lequel j'étais avant.
Je pense aussi.
Il était.
T'as
Ouais.
quelques followers sur Instagram, mais je pense pas que ça en est à ce qu'un mec d'Harlem te connaisse. Tu vois, je sens,
Ouais,
tu
c'est ça.
vois, mais ils sont bien tes photos, mais peut-être pas à ce
Et
point-là.
on m'a montré, en plus, le mec, il a fait ça sous une caméra de surveillance. Donc, il a fallu que je revisionne toute la
Oh la
scène.
vache.
Donc, moi, ils m'ont montré que la partie, voilà, que le clou du spectacle, si tu veux, mais apparemment, ils ont des vidéos qui viennent de bien avant. Donc, les mecs, ils l'ont tracé de, je sais pas, de quel angle de rue jusqu'à, enfin, ils ont continué à le tracer. Après, c'est peut-être aussi comme ça qu'ils l'ont retrouvé. Merci la vidéosurveillance. Mais ouais, le mec a fait ça, genre, random, quoi.
Et du
Bon,
coup,
après,
est-ce que c'est con, question peut-être déplacée, est-ce que tu imagines peut-être qu'un jour, le jour où tu auras peut-être digéré ça, que tu auras fait vraiment la paix avec ça, peut-être de retourner à New York et d'aller le voir et de lui demander, ou c'est con, hein, c'est peut-être un truc utopique de film, hein, justement,
non,
on est trop dans
mais en fait, si
l'américaine.
tu veux, moi, ce mec, il. Bon, maintenant, il y a un nom, mais j'arrive même pas à. J'ai pas eu le temps d'avoir de la haine quoi contre
Ouais,
lui, tu vois,
ok.
c'est pas un mec que tu sentais pas pendant un moment et il a fini
Ouais.
par se passer un truc, tu vois, j'ai pas eu le temps d'accumuler quoi, c'est arrivé comme ça quoi.
Ouais.
C'est comme si je m'étais fait renverser par une voiture en fait. Et donc ce mec, je connais rien de lui à part son nom, son prénom, et il a exactement le même âge que moi, ce qui est fou, je trouve ça
Oh
fou.
putain, ah ouais.
Ouais, pile.
Mais je pense
Et
qu'effectivement, ce qui te sauve pour m'être fait renverser et avoir failli mourir aussi quand j'avais 18 ans, 19 ans, quand j'étais en vélo par une bagnole, et je me suis percuté par derrière, et je suis atterri sur le pare-brise, et en fait. À aucun moment j'ai ressassé cet événement et ça m'a entre guillemets, tu sais, pareil, comment j'aurais pu me mettre, etc. Parce que tu le vois pas, t'as juste le résultat, tu sais pas comment c'est arrivé, etc. Et je pense que ce qui te sauve dans tout ça, c'est exactement ça en fait. Il y a au aucun moment où en fait tu peux refaire un, tu peux rien refaire en fait. Il y a pas un truc que tu aurais pu faire différemment puisque de toute façon, de ton point de vue, c'était impossible à prévoir ni à entre guillemets optimiser. Donc, et c'est intéressant aussi de se dire de vouloir voir certaines choses et de tu vois et d'arriver à se dire je rumine je vois je parce que moi ça m'amène à une question c'est est-ce que toute cette hospitalisation et ce fait qui est triste terrible et qu'on souhaite évidemment à personne est-ce que ça t'a fait changer ta vision des choses de la vie c'est con parce qu'on se dit tu sais quand on est au bord de la mort et ben en fait il y a plein de trucs en fait on se dit mais en fait non c'était débile ça ou ceci ou est-ce que pas du tout.
En fait, la première fois où je me suis senti victime, c'est un peu con à dire, hein, mais il s'est passé tout un truc où moi, le lendemain, j'ai ma mère et ma grand-mère qui sont arrivées et qui ont pris tout le truc en main, la partie assurance médicale, soutien psy, enfin, ils ont été au top. Quatre jours après encore, il y avait les parents de Manon qui arrivaient, donc là c'était encore plus machin. Donc nos parents se rencontraient pour la première fois. Et
Sympa les
en fait, c'est
présentations.
fou parce que voilà, mais c'est fou parce qu'avec Manon déjà, c'est allé très vite entre nous. On a fait que se rencontrer, se voir dans des endroits complètement atypiques. Et la première fois que je suis allé chez elle, c'était sur un coup de tête. On se connaissait depuis pas longtemps. Je suis arrivé en plein milieu de sa famille en week-end.
Ah ouais.
Voilà, intégration directe. Et là, nos parents se rencontrent. Enfin, ma mère rencontre et ma grand-mère rencontre ses parents en réanimation. Voilà, c'est ça. Ma famille, elle vient du tout au sud de la France, Montpellier, et sa famille à Manon vient du tout le nord, quoi, Valenciennes.
Ok.
Donc c'était les ch'tis contre les sudistes. Et en fait, ça s'est super bien passé. Donc ça, c'était. Enfin, moi, j'étais. Si tu veux, j'avais une position centrale dans la chambre de réanimation. Je pouvais pas bouger. J'étais en hauteur et je voyais tout ce qui se passait devant moi. Et donc, j'étais spectateur de tout ça. Et moi, franchement, j'étais heureux, quoi, de voir tout ce monde, de recevoir autant d'attention, d'avoir tous
Ok.
mes proches autour de moi, de voir que ça se passait bien, de voir que j'étais bien entouré. Voilà. Et en fait, si tu veux, la première fois où je me suis senti victime, c'est quand je suis fini par sortir de l'hôpital. Je suis allé tout de suite voir la procureure, j'avais rendez-vous du coup, où bah, elle m'a donné un peu ce qui allait se passer.
Yes,
Voilà, il
la
faut savoir que la
procédure.
procureure, très très à l'américaine, c'est vraiment, je pense qu'elle a vraiment été touchée par notre histoire. Et donc elle nous a donné des conseils, voilà. Et moi, où elle m'a dit, ne fais attention à ce que tu vas partager dorénavant, puisque je sais que tu utilises beaucoup les réseaux, parce que l'avocat du mec peut s'en servir contre toi. Et là, qu'on m'interdise de faire un. Elle m'a dit par exemple, elle a pris un exemple, elle m'a dit si dans un mois tu fais du saut en parapente, eh ben le poste pas. Et franchement, je lui ai dit.
Wow.
En fait, c'est là qu'on a commencé à me dire comment est-ce que je devais me comporter et dans quel mood je devais être. Donc ça a été la première personne à me dire fais gaffe, ne mets pas que tu kiffes en fait. Alors que j'ai envie de lui dire, mais je lui ai dit d'ailleurs, hein. Je lui ai dit, mais au contraire, quoi, c'est maintenant que j'ai envie de faire du parapente, en fait. Et j'ai envie de le crier, et j'ai envie de bouger, et ça va me donner un coup de pied au cul pour tous les projets que j'ai et qui traînent depuis un an, des
Yes.
voyages en moto et des compagnies. Et non, mais au contraire, en fait, je vais le faire, et en fait, tant pis. Elle m'a dit, oui, mais parce que ça peut te servir, ça peut te desservir, et tout ça. Mais je lui ai dit, mais écoutez, le mec a mis un coup de cutter dans la gorge d'un inconnu dans la rue à 11 h du mat. Je veux dire, qu'est-ce que moi, je peux faire après qui va atténuer sa peine à ce mec? Ok, s'avère que je suis pas mort et qu'en fait, au bout de un mois et demi, je suis retourné à la salle de sport pour voir, tu vois. Et alors, en fait, tu vois, ouais, elle me dit, bah, voilà, ce que me disent mes proches, c'est que le mec, il va prendre 10 ans alors qu'il aurait pu prendre 15 ans. Mais j'ai envie de dire que le mec, il prenne 10, 15, 20 ans, qu'est-ce que ça va me changer à moi, à mon quotidien, en fait? Je m'en tape complet.
Ouais, toi,
Je
ce que
suis
tu avais
pas.
envie, en fait, c'était justement de dire, mais en fait, vous comprenez pas que là, ce dont j'ai besoin, c'est de voir la vie du bon côté et au fait, ça
Exactement,
me met
ouais.
un coup de starter plutôt que me plomber ma vie, en fait.
Et je vais pas être du genre à voilà, à me cloîtrer, à me renfermer sur moi-même, et au
Yes.
contraire, j'ai envie d'exploser, quoi.
Ouais.
Ça fait 10 jours, ça faisait 12 jours que j'étais en réa, rien pouvoir faire. Dès que je me suis levé, on me disait attention, porte pas ton sac, repose-toi, assieds-toi, machin. J'ai envie de dire non, les gars, ça fait 11, 12 jours que je suis allongé, là, je prends envie de m'asseoir. Bon, en fait, si tu veux, en fait, j'ai passé, je vous dis pas de conneries, donc, je suis resté 12 jours en réa, j'ai dû passer à peu près 9-10 jours sans manger, sans pouvoir manger. Et j'ai perdu 6 kilos.
Ouais,
Voilà,
fit, fit le mec, fit là, t'es bien.
j'étais déjà pas très épais. Et en
Maintenant, t'es
fait,
comme moi.
voilà, ce qui m'a sauvé aussi, selon les médecins, enfin, un des trucs qui m'a sauvé, en plus d'avoir eu des réflexes corrects pour la situation, c'est que avant d'aller voir cette chère Manon à New York, je m'étais dit, allez, vas-y. Je m'étais mis, c'était mon petit objectif à court terme. Je me suis dit, tu vas aller tous les jours à la salle de sport, tu vas bien manger, tu vas te coucher tôt. Moi, je n'avais pas bu d'alcool depuis le jour de l'an. Tu vois, j'étais au
Ouais.
max, quoi.
Ah ouais.
Voilà, je fais peau neuve, voilà, je vais être au top,
Nouveau départ 2020.
athlétique. Voilà, athlétique et nouveaux habits. Voilà. Donc, voilà. J'ai gardé la même meuf, mais j'ai tout changé. Et apparemment, ce qui m'a sauvé, entre autres, c'est que dans cette histoire, avec le coup de cutter, la carotide n'a pas été touchée parce qu'elle a été protégée. Et c'est le cas chez tout le monde, en fait, c'est qu'elle est en arrière d'un muscle qui s'appelle le trapèze. Et c'est ce qui fait un peu les coups de taureau au rugbyman, là. Et en gros, le trapèze a joué son rôle protecteur de la carotide. Donc le mec a tranché dans l'art, quoi. Il a il a sectionné le muscle, mais du coup, il est pas allé me toucher la carotide.
Putain, donc, et comme quoi les mecs, faut aller à la salle, bordel, ça t'a sauvé la life.
Et pourtant,
mec.
C'était vraiment pas, j'étais pas très musclé de cet endroit-là, mais le peu que je l'étais, ça m'a sauvé quoi.
Putain, donc, tu ouais, envie de faire des pompes,
motivation de plus pour aller à la salle de sport.
Ah ouais. Non, mais comme
et
quoi,
puis bah, après 10 jours à l'IT, si tu veux, le corps il est allé puiser direct dans tous les petits muscles que j'avais mis 2 mois à me forger. Ça a tout s'ébarré en 10 jours, hein, les gars. Je veux pas, voilà.
Donc maintenant, t'es comme moi, t'as un corps d'enfant et tu dois repartir à zéro, c'est ça?
C'est ça, je repars à zéro. Ouais.
Ouais, putain.
C'est un peu les boules. Moi, je sais que dès que je vais pouvoir m'y remettre, ça, en quelques mois, ça devrait s'arranger.
Mais oui. Est-ce
sur le moment, j'avais les boules, tu vois.
Ouais, je comprends. Bah, après le manteau, les muscles, enfin, franchement, on se dit, ouais. C'est quoi cette vie de merde, quoi? Je suis en vie, mais pourquoi? À quoi
c'est
bon?
C'est con, hein. Mais ah, c'est trop putain. Con, mais c'est vraiment les trucs, le concret, quoi. Qu'est-ce qui
en fait,
change
c'est,
là?
Bon, c'est ça qui est fou, c'est que, en fait, ton cerveau, il est tellement habitué à réfléchir à certaines choses au quotidien, que quand même, il y a un obstacle qui se met sur ces trucs dont tu réfléchis au quotidien, il va continuer d'y réfléchir, en fait, un peu. Même si t'as les réflexes, tu vois. Il passe en mode autopilote survie, mais il dit quand même le manteau, ça me casse un peu les couilles, tu vois. Genre il passe en mode bon, j'appuie quand même pour pas m'étrangler, je vais faire venir l'infirmière. Mais putain, je suis en train de perdre mes muscles, tu vois. C'est un peu. Il y a des
c'est
réflexes.
Con, tu vois. Parce qu'au début, il voulait pas me nourrir parce que ben parce que je pouvais pas avaler à cause de tout ça.
Ouais.
Et du coup, moi, je leur demandais à ce qu'ils me nourrissent par les veines. Et en fait, ouais, ils ont pas voulu parce que c'est un truc qu'on fait vraiment dernier recours.
Ok.
Quand ça va pas du tout et que parce que c'est assez traumatisant pour tout ce qui est veineux, ça brûle les veines. Donc okay. En fait, ils ont pas voulu. Et je m'en rappelle, le quatrième jour, j'en pouvais plus. J'avais tellement la dalle, quoi. Je l'écrivais parce que je pouvais pas le dire, mais j'arrêtais pas de l'écrire. J'avais trop faim, quoi. Et quand j'ai pu manger, donc quand ils m'ont enlevé tout le bordel, elle a coupé l'appétit complet. Et j'ai repassé 4-5 jours sans pouvoir avaler parce que j'avais pas du tout faim.
Oh non. Ok.
Ouais, c'est con. Hein.
Ton corps, il se foutait un peu de ta gueule à ce moment-là. Je reviens vraiment sur ma question de. Tu sais, ce qu'on appelle aussi les changements de paradigme, c'est-à-dire qu'on a une perception du monde qui est d'une façon et que certains événements nous font changer cette même perception du monde. On regarde la même chose, mais plus du tout de la même façon et que certaines choses qui paraissaient super importantes tout à coup paraissent totalement futiles.
Ouais.
Est-ce que tu as eu ça dans ta vie? Est-ce que, je sais pas, il y avait des choses en cours que tu trouvais que c'était super important et que maintenant n'ont plus d'importance et inversement?
En fait, ça, si tu veux, c'est un process que j'ai depuis quelques années parce qu'à la base, donc j'ai pour reprendre un peu depuis le début, j'ai fait des études scientifiques.
Ouais.
Après le bac, je savais pas du tout quoi faire de ma vie. Je suis allé en médecine. Au lieu d'aller à la fac, je me suis éclaté le genou sur du corail. Donc là, ça m'a fait un peu louper une année déjà, une demi-année d'études,
ouais,
entre guillemets, parce que j'ai eu beaucoup de soins.
Ouais.
Et ça m'a fait découvrir un métier, donc à court terme. En fait, comme j'ai manqué d'être amputé, j'ai découvert un métier qui s'appelle le métier d'orthoprothésiste.
Ouais.
Donc ce sont les gens qui remplacent ou suppléent un membre,
ouais,
donc par une prothèse ou par une orthèse.
Mmh.
J'ai fait, bah, par mon histoire, je pense que j'ai été intégré dans l'école parce que c'était une sélection sur dossier. Donc à l'époque il n'y avait que Paris, Valence et Castres en alternance. Donc
ouais,
j'ai choisi Paris. J'ai fait ces études, j'ai travaillé un an et demi. Et au bout d'un an et demi, je voyais mes collègues qui étaient là depuis 10 ans. Et j'ai pris un coup de flip monumental, quoi. Je me suis dit ouf.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient ces collègues qui étaient là depuis 10 ans?
Ah, ils étaient adorables. Mais en fait je me suis projeté, quoi. Et j'ai réussi à voir ce qu'allait être ma vie. Savoir que c'était un boulot en plus particulier parce que fait à Paris. Donc, je pense que ce même boulot en province est différent.
Ouais.
Mais tu travailles du matin au soir, tu comptes pas tes heures, etc.
Ouais.
Et j'ai pris un flip, quoi. Et en fait, je voulais pas que toute ma vie tourne autour de ce travail.
Ok.
Et du coup, ben, j'ai eu mon premier vrai down. Je me rappelle, j'avais du mal à sortir. Ça, je l'ai raconté à personne. Mais en rentrant du boulot le soir, j'avais une voiture de fonction et j'avais du mal à en sortir. Genre, j'étais posé. Ouais. J'écoutais la radio, j'étais sur mon téléphone, j'avais du mal à sortir de cette voiture. Et en fait, j'ai ma mère qui, elle, a fait aussi, j'ai pris cet exemple-là, parce qu'elle a été en reconversion aussi, elle a commencé l'école d'infirmière à 30 ans,
okay,
après avoir d'autres diplômes et fait plein, okay, d'autres jobs. Et,
ouais,
et je me suis dit, vas-y, bah, pourquoi pas, parce qu'elle avait une qualité de vie qui m'intéressait. Et je me suis dit, vas-y, je le tente. Et du coup, sur un jour d'RTT, je suis allé passer le concours d'infirmier écrit. Et en vue de le préparer pour plus tard. Voilà, en vue de le préparer pour plus tard. Je me rappelle même le matin, on m'a dit, allez, j'ai pas envie. Je le sentais, enfin, ça me foutait la flemme sur mon seul jour de repos d'aller passer un concours, si tu veux, le matin, en banlieue. Et en fait, je suis même pas allé voir les résultats. Et un jour, par curiosité, en vélo, je passe devant l'hôtel de ville à Paris. Et je savais que c'était là qu'étaient affichés les résultats. Et en fait, je vois mon nom. Donc j'ai un doute quand même. J'appelle tous mes potes qui sont infirmiers. Je leur ai demandé comment ça s'est passé pour eux. Il y en avait qui me disaient, mais ouais, mec, t'as été pris à l'écrit. D'autres qui me disaient, mais non, rêve pas. Et en fait, je sais plus comment. Je crois que j'ai reçu un mail quelques jours après me disant, bah voilà, vous avez votre date d'oral dans un mois. Et là, je fais ouf. Donc je suis allé retourner voir au travail. Je leur ai pas dit tout ce que j'étais en train de manigancer, mais je leur ai demandé une deuxième jour de RTT un mois après. Ils étaient pas chauds.
Attends,
Donc ils
un
m'ont
jour
dit,
de
écoute, si
RTT,
t'as.
c'est des crevards, putain.
Ouais. Et ils m'ont dit, en gros, si t'as. Je crois que c'était 2 semaines après pour ça. 2 semaines après, j'avais mon oral. Et ils m'ont dit, bah écoute, non, on te laisse pas ta journée. Par contre, si tu arrives à faire toute ta journée en une matinée, t'as l'après-midi. Ok. Et du coup, je suis allé passer cet oral. Et j'ai fait ces écoles. J'ai été pris à l'oral. J'y suis allé nature. Et j'ai été pris dans cette école. Et d'ailleurs, j'avais été accepté dans une école qui était à Perpète. Il y avait le choix entre 6 écoles. Et en fait, je suis allé au culot à l'école que je voulais, et avec une lettre. Et en fait, ils ont apprécié la démarche et m'ont intégré dans cette école qui était près de chez moi, qui était top, bien placée. Et j'étais ravi, quoi. Et du coup, nouveau départ,
T'es
gros
devenu
boost.
infirmier.
Je suis trop content. Oh ouais, c'est 3 ans d'études. Au bout d'un an et demi, je commence à serrer un peu les dents. Et la dernière année, je l'ai vraiment fait dans la souffrance en me disant, voilà, en fait, c'était pas ça que je voulais faire, quoi. En fait, t'as des stages qui te calment un peu.
Ok.
Parce que bah, on peut le voir actuellement, hein,
Ah
l'hôpital
ouais.
public, ça se casse la gueule.
Bien
Ils
sûr.
sont tous en manque d'effectifs, ils
On
sont
leur fait
tous
un gros bisou.
stressés, ils sont déprimés, voilà. Et moi, je me suis dit, oula, je me jette d'un truc pas cool dans un autre. Et en fait, je peux pas dédier ma vie, parce que c'est ça. On a quand même le directeur qui nous a dit qu'on faisait un métier d'abnégation et de don de soi, ce que je trouve très noble. Mais ce qui, en fait, et c'est là que j'ai compris que ça ne me correspondait pas, parce que je ne pouvais pas passer toute ma vie. Je n'ai pas l'âme de Mère Teresa, quoi. Je
Ouais.
peux pas. Je savais que ce n'était pas en moi. J'avais
Bien sûr.
un truc qui. Voilà, je me suis pas reconnu dans ces paroles. Mais d'ailleurs, en fait, moi, c'est ce que je vois, c'est que l'hôpital tient que sur ça, que sur la bonne volonté des soignants.
Ouais, c'est
Et
ça
je
qui est
l'ai vu
fou, hein.
faire, et j'ai vu les techniques de management sur les infirmières
À
qui
l'ancienne.
arrivent. Voilà, c'est en gros.
C'est papa.
C'est le roulement de 7 heures. Et si tu veux, l'infirmière du matin qui se pointe et qui est en tenue à 6h15, 6h30 dans son service, et qui est censée terminer à 14h, qui déjà, une fois sur deux, termine à 15h, on lui dit, ah, mais en fait, aujourd'hui, tu doubles. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu vas pas finir à 14h, tu vas finir à 21h. Et elle dit, ah ouais, mais du coup, c'est chaud. Et elle dit, ah, mais quand même, il nous manque 3 soignants cet après-midi, tu vas quand même pas laisser tes collègues dans la merde. Et ben c'est pour ça que toutes ces infirmières et ces infirmiers restent et doublent, parce qu'ils sont
Wow.
pris sur leur côté soignant et bienveillant, quoi. Et on abuse de ça, on tire sur la corde. Enfin, c'est terrible pour eux. Et moi, je vois ça avec beaucoup de tristesse.
J'imagine. Et du
Et
coup, ça.
si tu veux, c'est pas des gens qui ont l'âme de combattre, en fait. Ils sont pas là pour ça, ils sont là pour prendre soin des gens
Bien sûr.
et être bienveillants.
Et on les
Et
amène au
forcément,
front avec les, ouais, avec les,
voilà.
le
Et si tu
timing
veux,
et avec le
on.
lifestyle qu'on leur impose et les horaires, ça devient des guerriers en fait et
Mais il y a beaucoup de gens, c'est le métier où il y a le plus de reconversion. Si tu veux, avec agent
Ah.
immobilier, c'est le métier où il y a le plus de reconversion des Français.
OK.
Et c'est un des métiers où il y a le plus d'arrêts aussi. Si tu veux, la moyenne. Alors attends, je l'avais les chiffres en tête, mais je crois que l'espérance de vie, entre guillemets, hein, d'un infirmier, elle a chuté à, je sais, moins de 10 ans.
Deux ans.
Donc,
Dix ans.
j'ai entendu un truc genre 4-5 ans. C'est là, au
Waouh.
bout de 4-5 ans, les gens changent. Parce qu'à
Waouh.
un moment donné, tu es obligé de te préserver. Et moi, si tu veux, j'ai vu que j'avais pas les armes pour me jeter dans
Ouais.
la gueule du loup comme ça.
Mais alors, qu'est-ce que
Je
t'as
pouvais
fait après
pas.
à ce moment-là? Parce que t'as ton diplôme en poche et tu dis, bon,
Bah, si tu
ça fait
veux,
deux
un
fois, là,
jour,
peut-être que je fasse quelque chose à un moment donné.
ouais, 2 diplômes, merci maman d'ailleurs, parce qu'elle m'a beaucoup
Et
aidé
elle est celle qui a été
pendant.
à ton concours, c'est ça?
Non, mais en gros, pendant 6 ans, si tu veux, j'ai 6 ans d'études à Paris, ça chiffre, quoi. J'avais des petits boulots, j'étais coursier et compagnie, mais mine de rien, j'aurais
Sans
pas pu
elle.
faire tout ça.
Bisous à
Ouais.
la maman.
Bisous. Et du coup, si tu veux, la dernière année d'infirmier, mon refuge, c'était la photo que j'avais déjà commencé il y a quelques années, avec beaucoup de déceptions. J'ai arrêté très souvent. Et là, je me suis dit, vas-y, j'en ai marre d'envier tel photographe. Pourquoi est-ce que ces photos, en fait, elles défoncent, quoi? Pourquoi est-ce
Ouais.
que je suis en admiration devant et moi, je n'y arrive pas? Donc j'avais tout le matos, j'avais des trucs de fou, j'avais investi, j'avais acheté en 10 fois sans frais à la Fnac, en 10 fois sans frais au salon de la photo, donc j'avais du matos cool. Et en fait, je me suis dit, vas-y, et du coup, en cours, j'ai ramené mon ordi, je retouchais des photos. J'étais au premier rang pour pas être grillé par les profs. Et mes parents, il y avait la promo derrière, on faisait des demi-groupes de 50 personnes ou 60 personnes, si tu veux.
Ouais.
Et tout le monde voyait que j'étais sur mon ordi en train de retoucher des photos. Et à la fin de ces études, j'ai fait un stage à La Réunion, donc là où j'ai grandi 7 ans.
Ouais.
Et c'est là où j'ai trouvé mes. Parce qu'en fait, le photographe que j'aimais beaucoup habitait là-bas.
Il
Et en fait, c'est là
s'appelle?
que j'ai compris qu'il s'appelle Rudolf. Je retrouverai son Insta. Je crois que c'est Rudolf Photo. Bisous à lui s'il écoute ce podcast un jour. Et en fait, je me suis rendu compte que j'essayais de faire. De reproduire des couleurs de La Réunion à Paris, donc ça ne fonctionnait pas. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis régalé, quoi. D'un point de vue artistique, j'ai trouvé mes couleurs que j'ai gardées encore maintenant, ma chromie,
Ouais.
que j'applique sur toutes mes photos, qui part de là et qui évolue tout le temps. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai eu un truc, pour en avoir discuté avec d'autres photographes professionnels, c'est-à-dire que j'ai eu le déclic de trouver ma patte. Et ça m'a fait un bien fou, quoi. C'est le truc qui me faisait arrêter la photo à chaque fois, parce que tu pars dans tous les sens, quoi.
Ouais,
Un coup, tu
ouais.
fais de la macro, un coup, tu fais de l'architecture, un coup, tu fais un portrait comme tu as appris à faire dans les livres. Mais en fait, tu as un portrait qui est chiant parce qu'il est trop correct. Et en fait, il faut que tu apprennes ces règles et que tu t'en abstrais après. Et ça, c'est très compliqué. Et en tout cas, le conseil que je peux donner, c'est ne lâchez rien, parce que ça va finir par vous arriver aussi d'avoir ce déclic-là et de vous sentir bien dans votre taf photographique.
Est-ce que tu penses que justement c'est intéressant de ce côté, j'ai acheté plein de matos et pourtant ça j'abandonnais souvent. Est-ce que tu penses que finalement avec un petit matos, tu peux avoir le déclic et tu peux te lancer?
Ben, en gros, c'est ça, c'est que j'ai eu besoin de tout revendre. J'ai tout revendu.
Ah, super
J'ai
intéressant.
ouais,
Alors c'est quoi
j'ai.
techniquement pour ceux qui nous écoutent, qui s'y connaissent un peu, t'avais quoi, t'as revendu quoi, t'as racheté quoi?
Alors, au fur et à mesure des années, j'avais accumulé un 24-70 2.8 Nikon, j'avais un D800, j'avais un gros grip, j'avais un 85 mm 1.8, j'avais pas pris le 1.4, j'avais été voilà, j'avais un 35 Sigma Art
Ok.
qui est génial, qui est un objectif que je conseille à tout le monde. Je sais plus ce que j'avais un 50 mm de base, enfin voilà.
Oh, il y a du tosma quand même.
Et il y avait pour quelques milliers d'euros, ouais. Et en fait, à un moment donné, je suis tombé sur les vlogs, premier vlog, j'ai découvert derrière l'existence du vlog,
Ouais.
pas de toi malheureusement
Oh,
Alex à
t'inquiète pas,
l'époque.
c'est non, mais je comprends. Je suis pas une référence non plus, on va pas se le cacher.
Mais d'ailleurs, j'avais vu un vlog de toi sans savoir que c'était toi,
Ah!
parce que tu as une tête de minot sur
Mais j'ai pas
les
changé
premières
pourtant.
expressions, non, voir les bases du langage thaï à un moment de
Ah,
voyage en
mais parce que
Thaïlande.
je parle couramment thaïlandais, effectivement, donc je suis pas étonné que t'aies vu
Voilà.
cette vidéo.
Ça va, Tika?
Ça va du cap. Et t'es
Et en
tombé sur les
gros,
premiers blogs, ouais.
ce mec, donc c'est un Californien, encore un mec de Portland, et en fait, je me suis aperçu que là-bas, il y avait un foyer. La plupart des gens qui m'inspiraient à ce moment-là venaient du même coin et se connaissaient tous d'ailleurs. Je pense à Samuel Elkins, Andrew Kearns, tous ces mecs qui sont potes entre eux et font des photos, mais de folie. Et en fait, il faut savoir que dans ce coin-là de la Californie, il y a une lumière que tu n'as nulle part ailleurs, quoi. Et
C'est une
ce qui se
lumière,
retrouve.
c'est des grands arbres, c'est des grandes
Voilà.
forêts, c'est au bord de la mer, c'est un lifestyle un
C'est
petit
la
peu genre cabane
nature, c'est
dans
les.
la forêt,
Voilà.
enfin,
Les cabines dans la forêt, les
voilà.
4x4, les
Les
vieux
vieux
Toyota.
vans, voilà.
Les marques, des marques magnifiques qui font des produits en coton, waxé, en cuir, en trucs vraiment bruts, vraiment l'inverse de Decathlon, quoi, des trucs très très beaux.
Attends, on aime
Et
Décathlon, ça permet
on
à
aime
tout le
Decathlon.
monde d'avoir du bon
Ah, mais
matos.
moi je suis plein, très très Decathlon aussi. Hein.
Mais
J'ai
ça a
beaucoup
moins de gueule
d'équipements.
en photo, on va pas se le
Ça a
cacher.
carrément moins de gueule, quoi. Je cache un peu la tente quand je la prends en photo, malheureusement.
Mais
Pour
t'es
revoir
bien content de la monter
Decathlon,
en deux
pour revoir vos
secondes.
coloris.
Mais
Pour
t'es
revoir
bien.
vos coloris, parce que les randonneurs, on les connaît, la dame, madame en rose et monsieur en bleu électrique
C'est
qui
ça.
gâchent la photo au loin avec le short jaune fluo, c'est pas possible. On n'en veut plus.
C'est ça, ça nique le paysage. Et du coup, en fait, tu t'es retrouvé à revendre tout ça.
Et
Et t'as racheté quoi?
ce mec a été un peu un, sur le moment, un peu un mentor, quoi. Je le voyais, très très simple, il bazardait tout. À l'époque, lui, c'était un musicos et il était en train de filmer son évolution
Ouais.
vers moins, en fait, si tu veux, vers du minimalisme,
Ouais,
etc. Donc,
ouais.
il en est venu jusqu'à vivre dans sa Prius.
Ouais,
Et en
ouais.
fait, le mec avait un objectif, un boîtier. Et moi, je suis parti de ce truc-là. Et en fait, j'ai regardé toutes mes photos que j'avais faites sur un an. J'ai sélectionné mes préférées. Et en fait, je me suis aperçu que toutes celles qui me plaisaient étaient prises entre 33 mm et 36 mm. C'est tout con à dire. Et en gros, ça veut dire que ma focale de référence
C'est le
dans les
35.
focales fixes, c'est le 35. Et j'ai tapé dedans. Et en fait, d'avoir un seul objectif, d'avoir des contraintes, ça te booste ta créativité. Et plus tu as de contraintes, et plus tu es
Génial.
créatif. Et c'est ce que je conseille à tous les gens qui se mettent à la photo, qui ont tendance à s'égarer dans la photo, à vouloir un objectif macro pour shooter des papillons, un ultra grand angle pour faire de l'architecture, un objectif pour faire de l'astrophotographie. Mais en fait, tu t'éparpilles. Et tu regardes des grands photographes, mais tu prends Henri Cartier-Bresson qui est toute sa vie a shooté au 50 mm et qui a fait parmi les photos les plus connues. Et c'est un as de la composition. Le mec a eu ça, quoi. Un boîtier, un objectif toute sa vie. Et ça a été un des plus grands photographes.
Wow.
Et
Et
en fait, ça marche à fond.
c'est ça qui t'a
Ça fait
fait.
mal au cœur, hein.
Ah ouais?
Ça fait mal au cœur. Moi, je suis allé progressivement, parce qu'après, vu que j'ai bossé en tant que photographe, j'ai eu des besoins d'objectifs.
Ouais.
Donc, mes premiers trips photo, j'ai fait un peu costaud. J'ai amené tout mon matos avec moi. J'avais 12 kilos de matos, donc je me flinguais le
Piche.
dos, j'avançais pas. Et puis, j'ai fait un autre voyage avec des amis en Grèce. Et je me suis prêt à, juste pour ce voyage, je me suis acheté un autre objectif, un zoom très grand angle. Donc, j'ai pris un 16-35 de 8. Ça m'a un peu ruiné. Et en fait, je me suis pas senti bien avec ça.
Ok.
Surtout que je l'ai utilisé qu'à 16 mm. Et là, récemment, j'ai refait un voyage et je suis parti qu'avec un objectif.
C'est
Et
lequel?
bah franchement, le 35 toujours.
Et c'est alors c'est quoi que
Le
t'as comme
35.
boîtier du coup maintenant et c'est quoi comme 35
Alors
c'est
à
quoi
l'époque, quand j'ai
pour
bazardé
les
mon matos
pros?
Nikon, je suis passé chez Sony.
Ok.
J'ai pris le. J'avais un photographe de portrait que j'adorais. Qui avait vraiment une patte très particulière. Il faisait des photos complètement imparfaites, un peu floues. Et j'ai adoré. En fait, pour me rassurer, j'ai pris le même boîtier que lui.
Ouais.
Et j'y ai adapté, parce que je
Qui
n'avais
était?
pas
C'était
les
quoi ce
moyens de.
boîtier?
C'était un Sony A7R2,
Ok.
que j'ai encore, et qui est mon boîtier principal de travail, qui est une
Ok.
bête, qui est pourtant qui est sorti en 2015, mais qui est carrément d'actu, sauf pour la vidéo et encore. Ça n'empêche pas d'avoir des tas de vidéos avec. Et j'ai tout bazardé et en fait ce qui est intéressant sur les Sony, c'est qu'il existe des bagues pour monter n'importe quel objectif de n'importe quelle marque. Tu peux
Ouais.
monter les objectifs de ton grand-père dessus que tu récupères. Voilà. Et du coup, j'ai pris un 35 mm tout manuel, tout petit, tout compact de Voigtlander.
Yes.
Et yes, voilà. Voigtlander, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on appelle le Leica du pauvre. À la base, ils font des. C'est une concurrence de Leica et ils ont toute une gamme d'objectifs pour Leica. Donc moi j'ai pris une bague Sony Leica et j'ai adapté un objectif Voigtlander dessus. Et en fait j'ai eu un
Charmé.
grain, enfin j'ai eu un look très particulier et c'est ce qui a beaucoup plu. Et d'ailleurs c'est comme ça que dans mon taf, donc je disais qu'en cours au lieu voilà, je retouchais mes photos. En fait commencer à prendre vraiment du plaisir à shooter de plus en plus, j'ai été repéré sur Insta par un copain de loin. Qui à l'époque lançait son business et qui adorait mes photos et qui me suivait de près. Et il m'avait dit une première fois, écoute, on cherche un community manager, machin. Moi, je savais même pas ce que c'était un community manager parce que j'ai fait 6 ans d'études dans la santé, donc je connaissais pas du tout ce métier. Et il m'a dit si tu connais quelqu'un d'intéressé et tout. Donc moi, je me rappelle, j'avais relayé l'info à l'époque. Et puis en fait, quand j'étais sur mon dernier stage, donc à La Réunion, avant de finir mes études, il m'appelle. En me disant, bah, écoute, en fait, c'est toi qu'on veut pour être notre responsable communication et marketing.
Eh
Un
ben,
mot que je ne connaissais pas, monsieur.
et ça, c'est beau
Donc,
gosse.
j'ai eu 2 jours de réflexion hyper intense où j'ai appelé tous les copains, les proches, la famille, les machins. Enfin, pas trop la famille, parce qu'en vrai, je pense qu'ils ne comprennent pas. C'est des métiers qui sont assez
Ouais,
récents.
d'accord.
Alors, si moi, déjà, je ne les comprenais pas.
Ouais.
Voilà. Mais voilà. Et puis, en fait, j'ai décidé de tenter l'expérience, de prendre le risque. Il faut savoir que j'avais lâché tout mon appart à Paris, j'avais fait tout mon déménagement, je n'avais plus d'appart à Paris, et là on me proposait un boulot à Paris. Donc
Quand t'étais à
rebelote
La
à
Réunion, c'est
l'époque.
ça? Quand t'étais à La Réunion, t'avais
Ouais,
tout lâché
en
pour
fait, mon
repartir
dernier
là-bas.
stage à La Réunion, je me suis
Ouais.
dit, vas-y, je pars 3 mois de stage à La Réunion, je ne vais pas me ruiner à 1200 euros dans un loyer à Paris, je le lâche, parce que de toute façon, après ça, il va se passer des trucs. Je vais
Voilà.
bouger de Paris, je vais
Ouais.
voyager, dans tous les cas, je reste pas là et je fais un autre truc, quoi. Et en fait, bah, on est venu me chercher. Donc, c'est pas comme si j'avais quitté, si tu veux, mon boulot et que je m'étais lancé à l'aventure. C'est-à-dire qu'on est venu me chercher pour le travail que j'avais. Donc, ça, c'est hyper rassurant, si tu veux, comme
Ouais.
démarche, quoi. C'est cool.
C'est valorisant de ouf. C'est valorisant de ouf.
C'est valorisant, mais c'est aussi, si tu veux, dans la famille, j'ai des sportifs de haut niveau.
Ouais.
Et à l'époque, il y avait dans leur entourage à eux, il y avait des gens qui arrêtaient l'école pour devenir cycliste professionnel, si tu veux. Donc en fait, les mecs n'ont plus le choix. Ils arrêtent l'école à, je sais pas quel âge on peut arrêter l'école, j'ai oublié, 14, 15 ans.
C'est ça.
Et donc les mecs se mettent à fond dans le vélo. Donc si tu veux, il y a des obligations de résultats. Les mecs ont, voilà, ont tout misé là-dessus. Tout. Et si tu veux, c'est ces mecs-là souvent qui sont amenés à faire appel à de la triche plus tard. Parce qu'il faut qu'ils restent au niveau, ils peuvent pas se permettre l'échec, ils ont pas forcément de parachute derrière. Et moi, j'avais l'exemple de mes cousins, ouais, qui étaient assez doués à l'époque. Et en fait, si tu veux, ils ont aménagé leurs études, on est venu les chercher, il y a des sponsors qui sont venus les chercher, des équipes étrangères, etc. Mais ils ont toujours gardé un pied dans les études, dans ce parachute. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a un qui s'est reconverti et l'autre qui s'épanouit à fond. Enfin, voilà quoi.
Dans d'autres boulots. Donc quand tu es reparti à Paris, t'es devenu justement photographe, community manager, tu crées du contenu. Et, ouais, et finalement, pour revenir un peu sur ce qui t'arrive aujourd'hui, et c'est ça qui va être intéressant, c'est de se dire, à ce moment-là que tu vis cette nouvelle période, t'es à Paris, rebelote, t'es en train de revivre un truc qui finalement fait plus de sens pour toi parce que, bah, après avoir testé deux autres choses, tu dis, oulala, non, en fait, non, c'était pas le bon chemin, hein. Tu te dis, putain, génial, le signe de la vie me dit que c'est par là que ça se passe, parce qu'on vient me chercher, ce qui est quand même pas rien. Je me mets un peu en danger en revendant mon matos, en revenant un peu plus créatif. Tu deviens, si t'en fais ton métier, t'arrives à en vivre. Il t'arrive, ouais, ce qui t'arrive. T'es passé de quelle vision de la vie à quelle vision de la vie aujourd'hui? Enfin, quelle vision avant t'avais en essayant de te lancer là-dedans, et finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté avec cet événement?
Si tu veux, c'est...
Ouais.
Voilà, j'avais fait un choix à l'époque de minimalisme et de je savais que j'allais pas avoir forcément la vie de carriériste en fait que souhaitent un peu nos parents, parce qu'ils ont pas connu la même période, donc ils ont bien besoin de sécurité à tout prix. Moi, cette sécurité, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens de ma génération, elle est assez angoissante,
bien sûr,
d'avoir ça, voilà. Et en fait, tu perds le côté aventure, tu perds un peu la carotte. Quand t'es salarié, t'as vite compris que moi c'était à ça que je voyais. En fait, tu déchantes, t'arrives dans le milieu du travail, tout le monde est en CDI, et si tu veux,
il n'y a plus de surprise.
Tu passes derrière des collègues, et en fait, tu te dis, attends, que je m'arrache le cul et que je fasse une journée de dingue, ou que j'en fasse le minimum, je serai payé pareil. Ou alors des primes, mais des cacahuètes, quoi.
Et même avec la même reconnaissance, limite. C'est aussi ça.
Voilà, et même moi j'ai vu des mecs monter plus vite que d'autres, alors qu'il y en avait d'autres qui donnaient toute leur vie, qui rentraient chez eux, les mecs ils étaient sur l'ordi à bosser, à faire des recherches, etc. Et t'en avais qui arrivaient tous les matins en retard, qui faisaient leur journée sur un pied, etc. Et ces mecs, parce qu'ils avaient un tempérament peut-être différent, une sympathie différente.
Un petit peu l'HQ.
Pas forcément l'HQ, mais il suffit que ta personnalité plaise plus que celle d'un autre, et tu vas avoir des espèces de cadeaux, quoi. Et en fait, quand t'as compris ça, tu te dis, tu commences à en faire tu fais le strict minimum, quoi.
Ouais.
Et tu te dis, c'est pas possible, enfin, t'as plus de carottes, quoi.
Mais c'est ça qui t'a fait passer. C'est ça qui t'a fait passer justement dans ton nouveau métier. C'est que tu disais, en fait, je veux être à la méritocratie. Si je me bute, je veux qu'entre guillemets, je récolte les fruits de ça. Et si je branle rien, tant pis. C'est bien fait pour ma gueule. C'était ça que tu recherchais.
Mais en fait, j'avais une vision très négative de ça justement, du CDI, parce que j'étais un peu en colère. J'avais un ami qui disait que c'était la garderie pour adultes. Je peux comprendre que à des moments de la vie, on a besoin de sécurité, on a besoin de stabilité. Moi, je dis ça, je viens d'avoir 29 ans, j'ai pas d'enfant.
Ouais.
Là, actuellement, j'ai même pas d'appart.
Ouais.
Depuis, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai pas d'appart.
Mmh.
Et en fait, je me suis jamais autant éclaté. Ça fait 2 ans que je me suis pas ennuyé, quoi. Mais je comprends. Enfin, je prends l'exemple de ma mère qui a dû m'avoir à 20 ans. Elle a pas eu les mêmes choix que moi, en fait.
Elle
a eu beaucoup moins de choix qui s'offraient à elle, donc je peux comprendre que
mais ça tu l'avais déjà, cette perception là du monde, ce côté où en fait j'ai besoin de saveur, j'ai besoin de spontanéité, j'ai besoin de surprise dans mon quotidien, tu l'avais avant cet événement de New York.
Ouais, est-ce que en fait, ça... j'avais commencé, ça fait, ouais, ah. Ça fait 4 ans maintenant, 5 ans.
Ok, que tu as entamé ça.
Ouais, et là, si tu veux, depuis 2 ans que maintenant je suis à mon compte et que bah, j'apprends en fait, j'apprends la communication, j'apprends un peu le marketing, j'ai commencé à avoir des notions. C'est... Je dis que ça fait 2 ans que je suis en apprentissage de ça, de tout ça en fait. Et je pense qu'en fait, on est un peu toute notre vie.
Je pense aussi.
Dans des métiers de la création comme ça, on passe son temps à apprendre des choses qu'on ne sait pas faire tout le long.
C'est ça.
Quand tu dis oui à un client qui t'a demandé un truc, sur le moment, tu n'en sais rien parce que tout va devoir sortir de ta tête à un moment clé.
Alors là, tout se fait, ça. Oui, bien sûr, je sais le faire. Bien, on va le faire, il n'y a pas de problème. Dans combien de temps? Super, il y a une semaine pour tout apprendre. Merci, bonsoir.
Voilà, là, juste avant ce call-là, j'ai eu une petite notification d'un partenaire avec qui je bosse, pour qui je crée du contenu.
Ouais.
Et en fait, je pense qu'avec toutes ces histoires de confinement, ils font un peu comme ils peuvent. Et là, ils m'ont dit, écoute, tu as 2 jours pour nous faire 2 photos et nous les soumettre pour qu'on les valide aux clients, pour qu'on revienne vers toi. Et en fait, je leur ai dit, ouais, pas de souci. J'ai dit ça ce matin, ou en fin de matinée, là, et juste avant notre appel, là, 1 heure avant, je me suis dit, bon. Ok, c'est bon, c'est bon. J'ai eu un flash en fait. T'as la créativité, ça marche. C'est assez bizarre quoi. Moi, j'ai du mal à enchaîner 2 shootings différents pour 2 clients différents dans la même journée. Je suis épuisé après un shooting. Quoi. Tu vas peut-être sortir que 4 photos, mais ça t'aura demandé toute ton énergie. Et je pense, je le vois vraiment comme un truc qui s'amenuise et qui s'écoule. Enfin, un truc dont c'est pas illimité quoi. En tout cas, t'as besoin de temps pour te refaire. Et en fait, tous ces moments off qu'on peut avoir quand on est créateur, où on se dit bah ça va, le mec il bosse que 3 jours dans la semaine et en fait il a besoin de ces 3 autres jours pour se ressourcer, faire autre chose, lire un bouquin, marcher, je sais pas, mais si bosser 6 jours sur 7, c'est pas possible. Tu à un moment donné tu pètes un plomb, tu fais de la merde et tu perds tous tes clients quoi.
En fait c'est ça, c'est que t'es obligé de recharger c'est pas la jauge d'énergie, c'est la jauge de créativité en fait qui s'évapore très vite.
Quand t'es créateur, en fait, c'est une sensibilité que tu as et tu es constamment en train d'observer. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une ombre, un son, un plat, des couverts qu'on va te filer à table. Parce que moi, je suis un peu formaté parce que mon premier client, ça a été un restaurant.
Ouais.
Maintenant, quand je vois des accessoires cool, je me dis putain, le poivrier, il est méga sexy quoi. Il me comme ça pour quand.
Toi, Ikea, tu dois avoir une demi-molle en fait.
Pardon ?
À Ikea, tu dois avoir une demi-molle en fait dans la section accessoires.
Pas tant parce que tu sais, tu cherches des produits bruts, tu cherches de. Et en fait, ça devient super compliqué, surtout quand tu habites à Paris, tu cherches une planche en bois brut, t'en trouves pas quoi. C'est que du formica, des trucs plaqués, des trucs, des trucs complètement vitrés. Trouver des matières, alors que quand tu vas chez tes grands-parents, tu t'éclates. Mais créer du contenu un peu authentique à Paris, c'est chaud.
Mais je vais pas te lâcher avec ma question qui pour moi est super importante et je te jure ça fait 25 minutes mais je te lâcherai pas parce que c'est pour moi c'est super important de se dire attends, ça se trouve tu vas me dire non en fait ta question non il s'est rien passé. Fort et je trouverais ça fort en fait de dire il s'est rien passé parce que ça veut dire que tu as su rebondir tout de suite. Mais s'il y a eu du changement et encore une fois c'est du changement surtout dans la perception.
Ouais.
Lequel est-il en fait?
En fait, si tu veux, j'ai été là ces 2 dernières années, j'avais un peu les clients vachement de demandes en fait, parce que quand tu prends du plaisir à faire ce que tu fais et que c'est bien fait sur le moment, ça va attirer d'autres clients potentiels et du coup tu te retrouves avec pas mal de taf, donc tu dis oui à tout et presque j'allais dire n'importe quoi parce que tu te vois pas refuser. Moi j'avais toujours cette épée de Damoclès où je me dis attends, tu viens pas de ce milieu-là, t'as pas fait les études.
La peur de manquer. C'est la peur de manquer.
Voilà. Ok, t'as 2 diplômes derrière, mais dans des métiers que tu veux pas faire. Donc, voilà, sur le moment, le pire truc qui pouvait m'arriver, c'est de me dire bon, ben, tu rétrogrades, entre guillemets, et tu refais ce que tu faisais avant. Et ça aurait été un coup de massue, quoi. Et du coup, j'avais toujours ce truc de dire oui à tous les boulots, puisque c'est challengeant, parce que c'est nouveau, tu découvres des univers avec selon tes clients, des mecs qui sont dans la coiffure, dans la restauration. Enfin, du coup, tu t'aperçois tous leurs contraintes, donc c'est toujours intéressant. Ouais. Là où c'est dur, c'est de moi fonctionner avec au forfait. Et ben, quand ça fait 1 an que tu shootes le même restaurant, ou que tu shootes le même coiffeur, ou que tu shootes, je sais pas, la même marque de bière, ou voilà, c'est dur quoi. C'est dur.
Ah ouais,
en fait, ça dépend. Bon.
Mais ça me dit pas en quoi ça a changé ta vision. Ça me dit pas en quoi ça t'a changé ta vision.
Ça a changé parce qu'en fait, pendant ces 2 années, je venais à tout prendre et à me dire bon, t'as bientôt 30 ans, il faut que tu commences à capitaliser, à yes. créer ta boîte. Donc j'ai commencé à créer ma boîte solo, puis j'ai
avoir cette envie un peu de ouais de construire, cette espèce de voilà, barrière des 30 ans qui dit merde, j'ai pas construit alors qu'il y en a d'autres qui construisent à côté et j'ai un peu de retard.
T'as les copains qui ont leur soit qui achètent leur baraque, soit qui ont leur deuxième business, etc. Donc tu te dis bon, vas-y, c'est bien beau là, j'ai l'impression de vivre un peu jour le jour, bohème, c'est cool, mais il faudrait peut-être, voilà, tu vois, si je veux capitaliser à un moment donné, donc j'en suis venu à déléguer, et au final ça m'a fait beaucoup de bien sur le moment, parce que t'as la partie création, mais t'as la partie gestion derrière qui en fait te prend un temps monstre. Alors tu passes 90% du temps à gérer et 10% à créer au final. Ouais. Et donc j'ai délégué cette partie, ça m'a fait du bien, mais encore une fois tu te retrouves à accepter des trucs et petit à petit à trop mettre dans ton petit cocon de sécurité machin, et t'as la motivation qui s'écroule. Ouais. Et en fait d'avoir eu cet événement, ça m'a ramené à ce qui me faisait vibrer et rêver. Et okay. En fait, ben si tu veux, on en a pas parlé, mais il y a un an et demi que j'ai acheté un van ouais. qui est trop cool, et j'ai l'utilisé 4 fois quoi. Et à l'époque quand je l'ai acheté, ce truc, je me suis dit vas-y, je vais créer du contenu en itinérance, ça va être génial.
Et tu t'es jamais donné le temps et les moyens de ce que tu voulais à la base, c'est ça? Parce que pris c'est dans ça. L'opérationnel. Et parce là, voilà, ça t'a donné envie de le faire?
Si tu veux, ouais. Voilà, si tu veux, à la base, je me dis, je reprends pas d'appart à Paris, parce que de toute façon, j'ai besoin d'être là que X jours par mois pour voir mes clients. Et en fait, tu te retrouves à passer 3 semaines sur 1 mois à Paris, parce que t'enchaînes les shoots et les mecs ils veulent te voir 3 jours après pour discuter, pour machin. Et en fait, tu te retrouves dans le même... En plus, c'est rassurant parce que t'as toutes tes habitudes. Enfin, à Paris, j'y ai passé 10 ans en tout et c'est la maison, quoi. Ouais. Et en fait, tu te retrouves dans un truc et là, t'as ton anniversaire et tu te dis, oh, merde. En fait, ça fait déjà un an et demi que je suis retombé dans ce truc et qu'on en est au même point, entre guillemets. Donc non, en fait... Et voilà, il faut avoir. Et là, de ce qui m'est arrivé, je me suis dit, non, mais. Tu vois, j'ai même plus peur de. Enfin, c'est un éternel recommencement, quoi. J'ai même plus peur de perdre certains clients ou quoi, et juste de me relancer dans un truc plus. Ouais. Qui va me redonner envie, en tout cas.
En fait, t'as envie de te relancer dans l'aventure.
Ou 4.
Ouais, c'est ça, exactement. En fait.
Voilà. Et du coup, c'est mon projet, là, à court terme.
En fait, le fait d'avoir eu cet événement, ça t'a rejeté. En fait, c'est comme si tu te baladais au bord de la falaise en la regardant, en disant putain, justement, dans pas longtemps, je vais faire un petit coup de base jump là, mais bon, merde, j'ai des clients, j'ai des trucs. Et puis tu marches au bord de la falaise, puis tu t'en éloignes. En fait, petit à petit, tu t'en éloignes et tu reviens un peu vers des terres un peu plus sûres sans même t'en rendre compte. Puis un jour, tu vois même plus le bord de la falaise. Sauf que là, cet événement, il t'a projeté. En fait, le gars, il t'a pris, il t'a jeté. Cet événement, il t'a foutu dans le vide. Et en fait, en tombant, tu t'es dit. Oh putain, mais en fait, c'était ça que j'aimais, en fait. C'était ça que je veux. Et je m'y accordais pas de temps. Et du coup, t'es en train de kiffer. Tu vas te donner du temps pour ça. C'est ça un peu qui est en train de se passer.
Ouais, moi, c'est complètement ça, quoi. J'en étais venu à manquer de recul sur certaines situations. Je me rappelle où j'avais essayé de voyager avec les copains, faire ce que j'aimais faire, ouais. tout en gardant mes clients à Paris tout seul. Ouais. Et un matin, je me rappelle, on était en train de prendre un café en Grèce dans un endroit magnifique, machin. Et moi, il fallait à tout prix que je trouve une connexion Wi-Fi avec une prise pour éditer une vidéo pour un client. Et le mec m'a fait un retour minime sur ma vidéo et j'ai pété un plomb, quoi. J'ai vrillé complet et ça m'a gâché ce moment-là, quoi. J'étais complètement ruiné par ça. Et en fait, tu t'aperçois que tu te retrouves dans des états émotionnels pas possibles, quoi. Et ça, c'est pas normal. C'est qu'il y a un problème.
C'est qu'il y a un problème dans ton process. J'aime bien terminer mon petit podcast par 2 questions. Alors, le coup de la DeLorean, je vais le modifier un petit peu. Parce qu'habituellement, je dis, si je te file les clés de la DeLorean pour revivre un seul moment de ton aventure, ça serait lequel? Je suis pas sûr que tu aies envie de revivre un petit moment de ton aventure. Donc, je vais plutôt le changer en si je te file les clés de la DeLorean. Parce que je vais quand même te la prêter, je suis pas salaud, on est quand même assez sympa. Et que tu pouvais aller rencontrer ton toi de 18 ans, tu lui dirais quoi?
Ah, en fait, je lui dirais de s'écouter et de suivre son intuition, parce qu'au final, c'est super important, et c'est là que tu t'aperçois que souvent inconsciemment tu fais les bons choix et il faut se faire confiance et il faut foncer. Et moi j'ai jusqu'à il y a 2 ans, je vivais un peu pour ce que les gens attendaient de moi. J'ai pas été un gamin très contrariant, etc. Et en fait, si tu veux, je vivais pas vraiment pour moi. Et j'ai l'impression que ça fait. En fait, si tu veux, pendant mes études d'infirmier, à un moment donné, je me suis occupé d'une personne en fin de vie. Et il m'a raconté c'est un monsieur qui habitait à Montmartre. Et il m'a raconté son histoire. Il avait des étoiles dans les yeux, quoi. Et moi, je me suis projeté. Je me suis dit, attends, mais moi, si je me retrouve là demain pour X raisons dans la même situation que lui, je vais être très, très mal. Je n'ai rien fait de ce qui me fait vibrer. Je vis par procuration à travers des créateurs ou des aventuriers sur Insta, sur YouTube. Mais moi, voilà quoi, c'est vraiment une vie par procréation. Et en fait, je dis pas de tout plaquer et de se lancer dans l'aventure, parce que selon son tempérament, c'est pas la meilleure solution, puis ça peut être casse-gueule. Mais s'assurer un truc, partir pour des. Si tu sais pas ce que tu veux faire après ton bac, s'il y a jamais des lycéens qui nous écoutent, pars pour des études courtes qui sont évolutives, donc pars pour un truc de 2 ans. Et si ça te plaît, tu pourras continuer 3 ans. Et si ça te plaît, tu pourras aller en master. Mais te lance pas, si tu sais pas, si t'es pas sûr de toi, te lance pas dans des études qui vont durer 7 ans et te rendre compte au bout de 4 ans, c'est pas ce que tu veux faire, quoi. Et reste attentif. Écoute, en gros, ce qui fait la différence, c'est de se remettre en question, de rester attentif à ce qui se passe autour de soi et rester ouvert à toutes les opportunités parce qu'il y en a tous les jours, tout le temps, ça fuse. Savoir saisir les bonnes, tenter, se casser la gueule, c'est pas grave, mais en fait, il se passe plein de trucs, quoi. C'est ce que je dis à mes petits frères et mes petites sœurs qui en sont là, qui s'angoissent pour leur futur alors qu'ils devraient pas, quoi. Ça, c'est vraiment un truc. Juste écoute-toi, reste attentif à tout ce qu'il y a autour de toi, et de toute façon, si t'es poli avec les gens, si t'es gentil, si t'envoies des bonnes ondes, tu vas forcément t'entourer de gens bienveillants et qui vont te tirer vers le haut à un moment donné, quoi.
Chant, mais hey, je peux t'assurer que toi, au moins, tu auras rentabilisé le voyage de la DeLorean. Hein. Ah, t'as pas donné un conseil pour Ram, hein. Franchement, pas mal. Si maintenant, toi et moi, on est en train de prendre un petit godet, et puis là, on est dans un PMU, parce que voilà, on était en bas de chez toi, on s'est pas fait chier à aller bien plus loin. On est là, on déconne, on prend un jeu à gratter, et bam, t'as 10 000 euros, mec. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui si t'as 10 000 balles comme ça qui tombent en jeu à gratter?
Alors, si j'ai 10 000 balles, j'essaye de pas tout claquer chez Leica. Je plaisante. En gros, c'est un truc auquel je toucherai pas.
Ah ouais.
Et en fait, ouais, ça serait pour moi, ça serait mon parachute. Et je prendrais un risque
Ah.
que j'ai pas l'habitude de prendre, je pense. Je sais qu'avec 10 000 euros, tu peux voyager un an autour du monde. Et si tu as ça, si tu as cette sécurité, enfin, j'ai quand même besoin de sécurité. Et si j'ai cette sécurité, alors soit j'essaierai de voyager sans y toucher, en me disant que c'est là.
Ouais.
Donc, en démarchant des clients, en leur proposant de créer du contenu à travers mon voyage. Ou soit vraiment, là, je pense qu'il me faudrait un deuxième coup de cutter pour que je me dise non, vas-y, nique tout, je claque les 10 000 balles dans un voyage maintenant et je m'en fous je laisse les problèmes au Gabriel dans un an, tu vois. Mais non, là, j'en suis au stade où ouais, je pense que ces trucs-là, ça me permettrait de rêver un peu et de tenter un truc.
De rêver en toute sécurité, c'est ça?
Voilà. Ouais, c'est des mots qui sont un peu contradictoires, rêver en sécurité,
Bah, mais je suis
mais.
un peu poète, hein, mais ça, je te l'ai pas dit. C'est juste, je te le fais découvrir comme ça. Ok, ça me va très bien. Je trouve ça super intéressant comme approche. Dernière question.
Ouais.
Si aujourd'hui, actuellement, maintenant, si tu devais résumer ta façon de voir la vie en une punchline, une citation, une phrase de ta création, ce serait laquelle?
Choisir, c'est renoncer.
Oh putain,
Elle est
vas-y,
venue
explique!
toute
Celle-là
seule,
me fait mal,
celle-là,
à...
mais
ah, elle est
tu
grave!
vas pas
Attends, elle me
la
fait mal à
dire.
la tête! Oh là là! Explique!
C'est que en fait, enfin, j'arrive pas à me dire, je vais faire ça toute ma vie ou je vais. Tu vois,
Ah.
souvent, ben, je prends cet exemple-là pour la photo. Donc je me dis, putain, j'hésite entre cet objectif et ce sac à dos. Putain, de quoi j'ai le plus besoin? Et en fait, tu te dis, c'est pas raisonnable les deux. En fait, tu te dis, non, vas-y, franchement, pourquoi en fait? Tu vois, enfin,
Ouais.
pourquoi ça se trouve, demain, je vais m'arriver un truc et je m'en fous. Enfin, profite. Enfin, profite quoi de ce que tu as. C'est pas
Toujours
un truc
rester
qui va.
flexible, ça j'adore. C'est toujours rester flexible. Et en fait, il y a un truc que j'aime bien dans cette phrase, c'est que la plupart des gens, ils croient qu'un choix, est définitif. Où est-ce qu'on va emménager? Où est-ce qu'on va habiter? Quel métier je vais faire? Mais tu sais quoi, tu vas habiter là-bas, mais après tu déménages dans c'est 6 ça, mois, ouais. Fais ce métier-là, exactement. Fais-le 3 ans. Et ça, c'est un concept qui nous a été ancré depuis c'est notre génial. Petite tendre ouais. enfance, parce que le concept de sécurité et de monoligne de vie, c'est-à-dire une ville, un job, un passe-temps, une femme, bah maintenant ça fait longtemps que c'est plus vrai, mais et en fait c'est ce côté où nous, c'est plus notre vie, c'est plus notre quotidien, c'est plus la réalité de la société qui est en perpétuel changement, parce qu'on en a envie, mais parce que l'activité même de la société fait que tu es obligé de t'adapter. Et il faut comprendre. Il faut comprendre ça. Et je m'excuse, je te recoupe un peu. C'est ceux qui écoutent, c'est les gars. Un choix n'est jamais définitif. Il n'y a que toi qui te l'impose. Et en plus, aujourd'hui, tu as toutes les clés pour pouvoir changer. C'est ça qui est important.
C'est exactement ça. Et dans mes stages, j'ai vu des aides-soignantes en fin de carrière complètement aigries parce qu'elles en étaient venues à détester ce qu'elles faisaient, à se plaindre tous les jours, toute la journée. T'as envie de dire, mais change, déménage. Tu fais 2h30 de transport tous les matins pour aller à ton travail, donc 5h par jour. Tu ne le supportes plus, mais change de boulot ou rapproche-toi de ton lieu de travail si tu peux le garder.
Mais ça a été tellement des notions qui ont été impossibles dans la génération d'avant. Aujourd'hui, les gars, vous prenez même pas la tête. Choisis, t'aimes pas, essaye, retente, t'aimes vraiment pas, change. C'est tout. Ouais. En tout cas, Gab, je tiens à te dire vraiment, vraiment merci d'avoir... voulu venir sur ce podcast parce que ce que j'aime, c'est que encore une fois, tu as vécu un truc très 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 difficile, comme il y en a d'autres aussi qui en vivent, mais toi aussi, c'est quand même un sacré coup du sort que tu es en train de surmonter avec panache et brio et surtout le sourire. Et je trouvais que c'était un magnifique témoignage aussi à faire circuler parce que voilà, peu importe ce qui t'arrive, tu peux rebondir. Et en fait, finalement, tu peux rien faire sur le coup de couteau qui t'est arrivé, comme tu dis, tu n'as rien pu faire. Par contre, il n'y a que toi, en fait, qui peux agir sur la façon dont tu vas le percevoir et comment tu vas t'en servir pour la suite. Et je trouve que tu t'en sers très, très bien. Et je trouve que voilà, ton témoignage, il est top. Donc, encore une fois, merci. Internaute, avant de nous quitter, si tu as aimé ce témoignage, si tu as envie de faire un petit coucou à Gab ou moi en story, ça fait toujours plaisir de savoir comment tu as écouté ce podcast, et ce que tu en as pensé. Ça nous fait toujours plaisir. Et évidemment, pour retrouver Gab et son travail et ses photos, il y a tous les liens dans la description du podcast, comme d'habitude. Gab, je te dis à très vite. Je te fais des bécons.
Merci beaucoup, Alex.
Avec grand plaisir, mec. Et évidemment, plein de belles ondes pour la suite. Maintenant que tu vas devenir un voyageur photographe de malade qui va habiter à Portland, je viendrai te rendre visite là-bas.
Ou c'est moi qui viendrai te voir avec mon van.
Ah, c'est ça qu'on aime. Deal, allez, on fait comme ça.
Ça marche.
Ciao Gab, bye.
Bien, Lida, bisous. Salut.
Ciao.